cette deuxième réunion thématique, puisque c'est le travail qui a conduit sur le développement économique durable. Donc on était la dernière fois au Brock Center, on a un peu changé, on a essayé de monter un peu le niveau dans l'accueil, j'espère que c'est, ça vous va bien. Alors, ce matin, le calendrier, donc on va regarder le calendrier, rappel des étapes précédentes, ce qui était important. Donc les objectifs de la deuxième donc, série de commissions thématiques, puisque nous en sommes là. La présentation des enjeux, donc reformulés sous forme d'arbre d'objectifs. Et la première trame donc, de stratégie avant le projet donc, de territoire. Et ensuite, la suite de la démarche. Alors, une démarche donc, entreprise depuis donc, plusieurs mois. Donc, vous avez vu qu'on s'est réunis quand même un certain nombre de fois. On s'est réunis aussi, et qui était un moment important au forum territorial donc, à Arras, où on a pu échanger. Donc largement. L'enquête, donc je rappelle aussi, ça c'était partie des périodes de consultation, il y a une enquête donc, auprès des socioprofessionnels qui nous ont permis d'enrichir ce document donc, dans les différentes thématiques. 8 réunions donc, cantonales avec 800 participants, là aussi ça nous a permis de recueillir un certain nombre d'informations qui concernent les fameuses thématiques. Ensuite, une formule, donc formulaire socioprofessionnel, donc, où 120 personnes ont répondu. Le forum territorial, et ensuite les fameuses commissions thématiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, avec donc les 13 sous-commissions. Alors nous en sommes où? La première partie donc, que nous avions vue donc, était ici, a déjà été traitée, c'est le fameux forum, et actuellement nous sommes ici, donc dans cette période-là. Donc les orientations, les pistes d'action, c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui, donc qui sont une étape importante, donc nous sommes le 17 avril. Nous sommes aujourd'hui dans le calendrier, donc pour bien que vous compreniez la chronologie que nous avons décidée, nous allons essayer de tenir. Bien. Donc c'est arriver à ce moment-là à respecter le calendrier. Vous avez ici donc en mai, ensuite en juin et ensuite en juillet. Donc vous voyez qu'il y a déjà un deuxième forum donc, qui va être positionné, qui va se situer en gros vers fin mai, voire début juin. On va voir. Il y a du travail après cette réunion. Donc là, on est aujourd'hui. Il y en aura peut-être une deuxième qui va se caler si nécessaire. Et ensuite, le cabinet d'Ater aura un certain nombre de travail avant le forum territorial qui aura lieu donc un peu plus tard, c'est-à-dire en fin. Alors, la trame qu'on va vous présenter donc aujourd'hui, on va définir à ce moment-là, il faut redéfinir qu'est-ce que c'est que les enjeux donc, identifiés collectivement qui ont été donc retranscrits en objectif opérationnel. On va vous présenter une liste. Donc tout ce qui a été retranscrit, pris dans la trame, pris dans les enquêtes des socioprofessionnels, ce qui a été donc recensé lors du forum territorial, ce qui a fait l'objet des réunions thématiques, donc il y avait des enjeux, ont été retranscrits, identifiés donc et retranscrits. Ce qui est important, donc le travail qui est important de faire ce matin, c'est savoir est-ce que c'est bien été retranscrit, est-ce que tout est là, est-ce qu'on n'a pas transgressé. Donc en gros, le sens de ces fameux objectifs donc opérationnels. Ensuite, sont-ils suffisamment importants hein, pour à ce moment-là donc figurer dans cette stratégie. Ça c'est important. À l'inverse, les objectifs répondent à des enjeux donc prioritaires n'ont pas été oubliés. Est-ce qu'il y a quelque chose, si vous avez réfléchi ou si vous avez eu le temps de penser, est-ce que quelque part il n'y a pas un manque véritablement? Donc, puis ajuster, valider le contenu, identifier donc pour chaque ensuite objectif, et ça sera un moment important ici, identifier donc pour chaque objectif opérationnel une action majeure. Alors une ou deux, parce qu'il y a des objectifs opérationnels qui vont paraître mineurs, cela peut-être qu'on les oubliera. Certains à ce moment-là vont être majeurs pour vous, ils paraissent importants. Il faudra commencer déjà à réfléchir quels sont à ce moment-là les plans d'action, les actions qui vont en découler majeures. Ça va nous aider à ce moment-là à construire, à donner du corps. Voilà.
Donc, comme le disait Pierre Alain, donc en fait, c'est de rester avec vous jusqu'à la fin de la matinée. Comme le disait Pierre Alain, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré l'ensemble des contributions et des ajustements qui ont été produits par la commission thématique ces dernières semaines, voire jusqu'à hier matin. Ce qui explique qu'on n'a pas de document à rediffuser parce qu'on a terminé un peu tardivement hier soir. Mais l'idée, ça a été de reprendre les enjeux, c'est-à-dire ce que vous considériez être comme des problèmes ou des atouts que vous souhaitiez soutenir dans le projet de développement durable du territoire. Et on les a transformés en orientation de travail. Enfin, on a dit, ça c'est un problème, qu'est-ce qu'on fait face à ce problème? Eh bien, on fait une orientation de travail pour résoudre ce problème, schématiquement. Donc en fait, on a, ici on avait tous vos enjeux, tout ce qui posait, tout ce qui était des défis pour demain, pour le territoire. On les a réorganisés en famille et on a fait des grandes familles. On a fait 5 grandes familles. Pour chacune des grandes familles, on a dit, ben, quels sont les objectifs stratégiques, sous axes, disons. Et puis derrière ces objectifs stratégiques, on a été un peu plus fin et on a dit quels sont les objectifs opérationnels. Et après, il faudra prendre, faudra faire un travail sur les pistes d'action. Donc en fait, on part de quelques axes stratégiques, on décline et plus on va vers le bas, plus il y en a des actions, voire des opérations très fines. Bon, c'est une méthode très classique, ça n'a rien de révolutionnaire. Donc du coup, ce travail a été fait avec l'ensemble des 13 sous-commissions. Donc on a récupéré les travaux des 13 sous-commissions et on a réalimenté en fait 5 grandes familles. Donc la famille connaître, préserver et transmettre les patrimoines naturels et les paysages de Préalpes, les Préalpes d'Azur, gérer les ressources naturelles et maîtriser les risques naturels, définir et coordonner une animation collective au projet, du projet culturel et patrimonial, favoriser un aménagement du territoire adapté aux formes existantes mais aussi aux besoins émergents et aux besoins de demain, et puis assurer un développement économique durable du territoire. Donc on a ces 5 grandes familles. On a, quand on fait la somme des enjeux, des choses que les gens, les acteurs, les habitants veulent faire sur le territoire, on a une hypertrophie de ce dernier, puisque ça constitue 35 à 40% de l'ensemble des orientations stratégiques opérationnelles que les gens attendent. Donc, il n'est pas dit qu'en réécrivant la charte, en écrivant la charte à partir du mois de juin, on ne fasse pas un sixième, enfin, il y aura peut-être un petit peu de recomposition, mais pour l'instant, pour un souci pratique, on a recomposé. La terminologie, elle est plus ou moins, je dirais, révélatrice du territoire. C'est vrai que si on disait connaître, préserver et transmettre les patrimoines naturels et les paysages, qu'on enlève Préalpes et qu'on mette Patagonie, ça marcherait aussi. Hein, donc peut-être qu'il faudra à terme essayer d'être un peu plus, de traduire dans les titres des choses qui ressemblent plus à la situation locale. Mais c'est un exercice difficile parce que de toute façon aujourd'hui, les enjeux de la biodiversité, les enjeux du climat, les enjeux du développement économique, de l'emploi, de la solidarité, c'est quelque chose qu'on retrouve à l'échelle quasiment planétaire, pas dans les mêmes dimensions. Donc pour l'instant, on a fait ces 5 grandes familles. Donc ce matin, on va travailler sur cette famille-là.
Oui. Petite question. La présentation 1, 2, 3, 4, 5, c'est par ordre décroissant ou non? Non, parce que vous avez dit celle-là, elle est un peu moins présente.
En fait, on n'a pas fait de hiérarchie. On a pris comme ça venait. Simplement, sachez quand même que dans les missions des parcs naturels régionaux qui sont confiées par l'État et les partenaires, au titre de cadre législatif et réglementaire, hein, et code de l'environnement et autres textes juridiques, les missions premières et principales pour un parc naturel régional, c'est d'assurer une gestion équilibrée de la nature et des paysages. Le parc est d'abord attendu là-dessus. Ensuite, il doit contribuer à l'aménagement du territoire, au développement économique et culturel. Et puis il y a 2 actions spécifiques, comme la première, sur laquelle on l'attend, c'est l'éducation, l'information et l'accueil des populations et du public. Donc un travail d'éducation, de pédagogie, de formation des citoyens sur les enjeux du territoire. Et un travail d'expérimentation, d'innovation, de choses un peu compliquées à mettre en place d'habitude. Voilà. Donc le parc est vraiment attendu sur la partie gestion des patrimoines naturels, culturels et la gestion des paysages. Et la partie éducation... sensibilisation de la population et expérimentation. La partie développement économique et aménagement des territoires, compte tenu des moyens financiers qui sont donnés et des missions qui sont confiées à des parcs, hein, puisque les parcs sont des syndicats, sont portés juridiquement par une structure qui s'appelle un syndicat mixte, qui n'a pas de compétences juridiques. Les compétences d'un syndicat mixte, c'est les statuts de ce syndicat qui les donne. Alors qu'une communauté de communes ou une commune, ou l'État, ou un conseil régional, il a des compétences de par la loi et il doit assumer ses compétences. Pour un parc, il n'y a pas de compétences. Ce qui fait la légitimité et ce qui fait que le parc doit mener telle ou telle action, c'est la charte qui le dit et c'est les statuts du syndicalisme qui le disent. Donc du coup, très souvent, ces deux fonctions-là, qui sont souvent des fonctions très attendues par la population, ne sont pas nécessairement les fonctions sur lesquelles on a le plus de moyens, parce qu'on a déjà les communautés de communes, on a déjà les communes qui gèrent l'urbanisme, on a déjà le conseil général qui a un certain nombre de fonctions. Donc, ici, on a le verbe « contribuer » dans le texte, hein, dans le décret de 2007, c'est « le parc contribue à l'aménagement du territoire et il contribue au développement harmonieux, équilibré, etc. » Alors qu'ici, sur la nature et les paysages, il est en responsabilité, il a un devoir de coordination et de gestion. Voilà. Donc, implicitement, on l'a mis un peu en haut, parce que si jamais on le mettait en bas, on le traiterait à la fin des réunions, alors que c'est primordial. Donc, j'ai pas fait de sondage pour savoir. Si je faisais un sondage aujourd'hui dans les 500, il y a une très grosse, il y a une bonne attente hein, là-dessus quand même, c'est très encourageant, mais il y a aussi une très forte attente, vous allez le voir. Okay. Voilà. Dernière chose que je vais vous dire avant d'attaquer, et de passer la parole à Pierre-Alain, c'est, en général, je pense que ceux d'entre vous qui sont présents dans cette salle connaissent ce petit schéma et pourraient le remplir. Je le dis parce qu'on va en avoir besoin ici. Ça doit être un filtre. Hein. Quand on parle de développement économique durable, rappelez-vous ce qu'on a dit sur le tourisme, ce qu'on a dit sur l'agriculture, ce qu'on a dit sur la forêt. Quand on parle de durable, il faut avoir à l'esprit qu'on attend un développement, certes économique, mais qui doit prendre en compte les enjeux sociaux ou sociétaux et les enjeux d'environnement. C'est à chaque fois ça qu'il faut viser. C'est-à-dire, il faut se rapprocher, quand on a des actions économiques, il faut se rapprocher ici de ce cœur, c'est-à-dire faire en sorte que ce développement économique, il joue aussi une fonction d'équité, de solidarité vis-à-vis des populations, des organisations sociales, etc. et qu'il ait une prise en compte majeure ou exceptionnelle de l'environnement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la vocation d'un parc naturel régional, c'est pas de développer l'économie, et puis de s'arrêter là. C'est vraiment d'aller vers ce cœur-là, plus une quatrième notion qu'on utilise souvent en matière de développement durable. Bon, je vous la fais vite, hein, parce qu'on peut écrire 800 pages sur le développement durable. Une quatrième dimension pour du développement durable, c'est la gouvernance. Je le dis d'autant plus, cet aspect-là, qu'aujourd'hui, les parcs naturels régionaux qui sont agréés, enfin qui obtiennent le label, peuvent demander, et quasiment le font systématiquement, une labellisation au titre de ce qu'on appelle l'agenda 21, qui est en fait, simplement, que le projet de territoire. À chaque fois qu'on a proposé des orientations, on s'est appliqué, on s'est efforcé d'aller vers ce cœur-là, c'est-à-dire de faire quelque chose qui concilie et qui optimise économie, sociale et environnement, et qui se fait dans le cadre d'une gouvernance, avec des structures associatives, avec des organes de décision, des organes de gestion, des organes de concertation, de consultation, des commissions de travail mixtes, etc. Donc c'est vraiment dans ce schéma-là qu'il faut travailler. Je ferme la parenthèse, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ça, mais je voulais le dire pour que quand on va ici trier ou filtrer ou hiérarchiser, que ça soit bien, on regarde ça. Ça va?
Je n'ai pas parlé trop vite? Alors, donc, je vais grossir un peu, hein, mais c'est simplement pour vous donner un aperçu.
On est donc dans l'axe 5. Assurer un développement économique durable du territoire, c'est ce gros paquet, qui se subdivise en 4 sous-paquets, donc qu'on appelle les objectifs stratégiques. Donc un objectif stratégique comme un objectif opérationnel, ça se caractérise par un verbe, c'est-à-dire que ça montre le sens et la direction dans laquelle on veut aller, à l'inverse d'un enjeu. Un enjeu, c'est la paupérisation ou la désertification, ça c'est un enjeu. Lutter contre la désertification, c'est un objectif. Donc, le premier qui nous semble avoir retenu de nos échanges, des discussions, puis ce qui est remonté des discussions dans les sous-commissions, le premier, c'est soutenir, enfin le premier, pas dans l'ordre d'importance, mais dans l'ordre d'apparition, c'est soutenir des activités agricoles et forestières qui soient productives, viables
et bénéfique pour les patrimoines naturels et paysages. Donc il y a bien cette conciliation. Il faut absolument qu'on arrive à assurer et à promouvoir et à soutenir d'une manière ou d'une autre, avec les moyens plus ou moins importants qu'aura le syndicat mixte du parc et les partenaires autour, soutenir des activités agricoles et forestières, mais avec ces qualificatifs-là et s'inscrivant dans un sens de préservation et de protection de la nature et des paysages. Le deuxième, c'est organiser le développement d'activités touristiques et de loisirs de pleine nature, puisqu'on a quand même une très forte potentialité sur cette question-là, mais qui soit respectueux du territoire et de ses habitants. On a bien senti la dernière fois, lors des discussions, que selon qu'on est à Carrosse ou selon qu'on est sur le plateau, ou complètement au nord, on n'a pas du tout les mêmes problématiques, et il faut tenir compte de cette mosaïque de situation dans le projet de
Qu'est-ce qu'on veut dire avec pleine nature ?
Pleine nature, c'est... Oui,
c'est un tour de nature.
On peut enlever pleine.
Oui.
Moi, ça ne me gêne pas.
Si, dans le cadre des activités, ce qu'on appelle les APP, les activités physiques de pleine nature.
Oui, mais...
À mon sens, c'est
un peu... Oui, oui, tout à fait.
C'est des activités de plein air.
Oui. Non encadré véritablement, c'est-à-dire... qui ne nécessite pas forcément un encadrement. Donc déjà, qui peut être une pratique, je dirais, relativement libre dans un espace ouvert et naturel. Donc, et c'est là où, suite aux discussions qu'on a eues, c'est là où, effectivement, les milieux pour recevoir ce type d'activité doivent être organisés, les gens éduqués, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle de pleine nature.
C'est une terminologie un peu courante, mais moi ça ne me gêne pas de l'enlever, parce que de toute façon on la retrouve sur, de manière un peu plus ciblée sur le 5.2.4, puisque là on est vraiment sur les activités de pleine nature, au sens un peu la terminologie qui est usagée, enfin qui est utilisée actuellement dans ces activités. Donc moi, si personne n'y voit un inconvénient, on peut le supprimer. Moi, je... Bon, c'est... Enfin, je pense pas, à la différence d'autres adjectifs... Non, non, non. Non, non, c'est un abus de. Enfin, c'est une. Enfin, un terme un peu usité, enfin, utilisé un peu spontanément. Le troisième, groupe d'orientation stratégique de travail, c'est le soutien, pour soutenir le maintien et la création d'activités artisanales, commerciales et de services cohérentes avec l'ambition de développement qualitatif du territoire. Donc là, le parc, ça va, son rôle, ça ne va pas être nécessairement de faire de l'aide à l'installation d'artisans, de l'aide à l'installation de services et distribuer des subventions d'installation, parce que ce n'est pas sa vocation première. Par contre, c'est être un acteur pour accompagner cette activité de création et de maintien de prestataires de services, de commerçants ou d'artisans, dans une logique qualitative de territoire. Hein. Donc on verra des exemples, enfin on peut discuter d'exemples en la matière. Et le quatrième groupe d'orientation, donc la quatrième orientation stratégique, c'est mettre en place une politique de formation, de solidarité et de soutien au savoir-faire et aux emplois locaux, notamment dans une logique d'insertion. Donc là, c'est pour notamment venir soutenir cet axe social et solidarité, hein, qui est un nouvel axe qui était peu... Il y a eu très peu de parcs en France, c'est jusque... jusqu'aux années 2005 à peu près, 2004-2005, il y a très peu de parcs qui se sont intéressés à ça parce qu'ils ne savaient pas trop comment le faire, et c'était sur la partie nature. Et puis petit à petit, en faisant des chantiers, en touchant à la question des chantiers d'insertion, du traitement des espaces verts avec des équipes de RMI, etc., ils sont venus au social. Et aujourd'hui, avec l'avènement des accords 21 et l'approche développement durable complète, on a de plus en plus dans les nouveaux parcs cette approche-là. Mais là, ça demande beaucoup d'articulation avec le Conseil général ou les centres communaux d'action sociaux. Il n'est pas seul, hein, il va essayer de concourir à ça. Donc voilà à peu près les quatre familles d'orientation stratégique. Donc je vais juste vous demander si vous arrivez à lire. Vous arrivez à lire là ?
Oui.
Vous voulez que je grossisse un peu ? Ah ben j'avais prévenu. Hein. C'est bon là ? Allez. Bon, c'est un peu tronqué, mais vous devinerez. Donc sur le premier paquet, je vais les lire très vite, juste pour que vous ayez une vision un peu globale des 29 objectifs opérationnels. Puis après je vais remonter et on va passer quelques minutes pour chacun d'entre eux pour voir si on est bien d'accord sur la reformulation. Donc sur le premier groupe, la première orientation stratégique est ici. Donc objectif opérationnel, donc très concret, consolider le diagnostic et la stratégie agricole et forestière pour se mettre d'accord sur la connaissance et les orientations. Donc on a le droit de ne pas avoir encore totalement figé ou défini la stratégie de développement agricole et forestière pour les années qui viennent. Ça peut être un axe de travail de la charte pour les 10 à 15 années qui viennent. Définir et mettre en place des stratégies de soutien, valorisation et développement des activités de production agricole spécifiques, donc c'est la déclinaison de ça. La marque parc, l'utilisation des ressources forestières sur un certain nombre de... localement, permettant d'entretenir les paysages et contribuant à la gestion durable du territoire dans le respect de l'identité locale. Aider à la concertation entre le parc, les professionnels de l'agriculture et de la forêt, les collectivités, les organismes consulaires et l'État pour une gestion optimale de l'espace agricole et forestier. Donc là, c'est la question de le parc comme outil de concertation, de dialogue, la table autour de laquelle les gens se réunissent. Renforcer la viabilité économique des filières, hein, on a vu qu'il y avait des fragilités dans les enjeux sur les filières agricoles comme forestières, et soutenir la diversification des activités agricoles pour l'apport d'un revenu complémentaire aux exploitants et le développement d'une activité de bois rentable et source d'emploi. Favoriser le développement d'une agriculture et d'une activité forestière dans le respect de l'environnement, prise en compte de la protection de la qualité de l'eau, développement des filières bois, etc. Donc là, c'est le premier paquet avec ces grandes orientations derrière lesquelles on pourrait avoir des actions, on va y revenir tout à l'heure. Je continue ma lecture, si vous le permettez, pour que vous ayez bien ce panorama. Sur le deuxième groupe, définir une stratégie de gestion et de développement, c'est le tourisme, hein, sur lequel on a beaucoup discuté la dernière fois, et où on sent bien qu'il y a pas mal d'ambivalence, voire de conflits latents, ce qui est normal pour un territoire comme le vôtre, comme tous les territoires d'ailleurs. Et donc il y a un chantier, un vrai chantier, et le parc peut vraiment venir jouer un rôle. Définir une stratégie de gestion et de développement maîtrisée des activités touristiques, cohérente avec le respect du territoire et de l'environnement et des habitants. Favoriser le développement d'activités touristiques commerçantes et ou d'hébergement. Donc là, c'est la notion de valorisation marchande de l'activité touristique, avec la découverte des patrimoines, les pratiques traditionnelles et la culture du territoire. Soutenir le développement des capacités et de la qualité d'accueil en milieu rural. C'est toute la question de l'hébergement et des lieux d'accueil. Mais toujours sur un profil, hein, une tonalité parc naturel régional. Mettre en place une gestion concertée des activités de pleine nature, afin de partager l'espace et de trouver un juste équilibre entre l'ouverture au public et la préservation des espaces et des espèces naturelles, sensibles. Donc là, c'est la question de la concertation, de la conciliation, de la médiation entre les différents utilisateurs de cet espace. Soutenir le développement de la relation touristique et culturelle entre le territoire et le littoral. Donc là, c'est un vrai enjeu. Je pense que le CNPN sera très attentif et les instances nationales sont très attentives à cela. On est dans un territoire très emblématique. La Côte d'Azur, tout le monde en a une image, hein, au ministère, au Conseil national de la protection de la nature, dans les instances importantes. La Côte d'Azur, l'image qu'on en a, c'est qu'on a énormément bétonné, énormément construit. Donc créer un parc à 20-30 km du littoral, ça veut dire quoi? Donc ça va être un axe de travail sur lequel il faut absolument dire des choses et dire qu'on va faire des choses, sinon la vie intermédiaire serait à mon avis pas très porteur, pas très positif. Développer une politique de labellisation au sein du parc afin d'en valoriser les productions et les savoir-faire. Donc là l'idée c'est que le parc amène cette coloration de qualité en lien avec les patrimoines locaux. Favoriser le développement d'un tourisme appréhendé comme un complément d'activité et source de financement. Et ça c'est le complément de ce qu'on disait sur l'agriculture par exemple, hein, c'est le tourisme comme un complément aussi économique. Utiliser la multiplicité des activités de pleine nature offertes par le territoire comme image pour sa valorisation touristique. Donc là on est sur le travail de l'image et de l'identité du territoire, le tourisme, comment l'utiliser ou comment le tourisme utilise cette image, comment il la fabrique, et sensibiliser les touristes au respect du territoire et de ses habitants. Sensibiliser les touristes au respect du territoire, de ses habitants et de ses patrimoines, puisque sur un même territoire, on a des gens de l'extérieur qui viennent. Donc comment on travaille sur cette question-là? Donc ça, c'est un gros paquet, hein, quand même, le tourisme.
complètement avec celui-là.
Celui-là, ouais, c'est plus facile, celui-là.
Il y a pas
non.
C'est fini non. On reste encore un peu de salut. Donc on a vu agriculture forêt, tourisme. Définir, donc là on est sur le troisième paquet, donc définir une stratégie de maintien de création d'activités économiques durables sur le territoire. Donc là on est à nouveau sur la partie un petit peu conceptuelle et théorique. C'est quels sont, quel est le schéma de développement économique qu'on peut avoir sur ce territoire. Donc il y aurait un travail de réflexion, et ça ne va pas se faire comme ça en un mois, trois mois ou même six mois. Ça ne veut pas dire que les commissions ne peuvent pas travailler d'ores et déjà là-dessus, hein, mais par contre ça veut dire que peut-être ça ne sera pas terminé, donc la charte pourrait venir soutenir cette réflexion-là et obtenir les financements pour avoir cette réflexion. Favoriser le développement des services de proximité, adapté aux échelles territoriales. Donc là, on est à cheval entre la notion de solidarité qu'on verra tout à l'heure et la notion de développement économique. Soutenir de manière privilégiée le développement d'un artisanat local utilisant les matières premières locales. Donc là, l'idée, ça plaira bien au CNPN. Enfin, ça plaira, c'est pas une histoire de plaire, mais c'est bien dans la philosophie. C'est comment faire du développement endogène avec nos ressources, sans aller chercher du pétrole ou je ne sais pas quoi qu'on n'a pas sur le territoire. Qu'est-ce qu'on fait de nos potentialités en matière artisanale, soutenir le développement de la labellisation des productions artisanales. Bon, il faudra vérifier, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, parce qu'il y a déjà d'autres labellisations, il y a les appellations d'origine contrôlée, il y a tout un tas d'autres choses. Promouvoir les pratiques respectueuses des personnes et de l'environnement dans l'entreprise. Donc ça, c'est la notion de soutien auprès des entreprises pour la mise en place de systèmes de management environnemental ou pour mettre en place des approches de développement durable au sein même de l'entreprise. Responsabilité sociale, etc. Promouvoir et diffuser les productions artisanales locales dans l'avant-pays. Donc là, c'est la relation marchande avec l'avant-pays, enfin économique avec l'avant-pays. Soutenir les emplois et savoir-faire locaux et la production d'une richesse locale et communauté de dépeuplement des espaces ruraux. Donc là, c'est d'une manière un peu générale ce que vous nous avez dit en matière d'occupation économique du territoire. Et favoriser l'accès à la formation des actifs en lien avec les orientations. Donc ça devrait être ici. C'est dans le cadre. Accès à la formation des actifs. Bref, c'est un peu à cheval. On va le laisser là. Donc favoriser l'accès à la formation des actifs en lien avec les orientations générales de la charte sur l'énergie, le développement durable, l'artisanat. Donc il y a des parcs, par exemple, qui mettent en place avec les chambres de métier des programmes de formation pour les artisans de manière à ce qu'ils intègrent certains aspects du développement durable dans leur métier, hein, pour les plombiers, les électriciens, comment travailler. Donc ils ont avec la chambre de métier, ils mettent en place des formations pour former les artisans qui interviennent sur un territoire et pour qu'ils intègrent en fait cette notion de développement durable dans leurs activités, leur manière de faire. Et puis enfin, dernier bloc, favoriser le développement de l'utilisation des technologies d'information et de communication pour un accès facilité à la formation et à la connaissance. C'est vrai qu'on est dans un territoire, pour faire sa traversée, parfois on peut mettre une heure et quart. L'usage des technologies d'information et de communication, c'est typiquement pour ce type de territoire que ça peut être utilisé. On croit beaucoup à cela, hein, c'est une priorité internationale, à la fois pour le développement durable et pour le renouveau des tissus économiques, notamment dans les pays occidentaux. Encourager le développement de dispositifs d'insertion et d'emploi pour les personnes les plus fragiles, donc ça c'est la vocation solidarité sociale. Soutenir le montage de micro-projets locaux pour contribuer à le développement durable. Donc là, c'est l'idée que là aussi, on a nos forces et nos capacités endogènes pour créer de la valeur, pour créer notre propre emploi. Et donc peut-être que le parc, dans l'orientation parc naturel régional, peut être un soutien. Appuyer le montage des projets de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en relation avec l'insertion sociale et professionnelle à la jeunesse et l'action culturelle. Donc là, c'est concilier ou en tout cas utiliser certaines thématiques action culturelle et booster ces activités ou ces actions avec des actions d'insertion donc mobiliser ce travail-là pour des populations fragiles donc ça peut être une action. Améliorer la connaissance et la maîtrise des données économiques, donc ça c'est la notion d'observatoire. On manque d'informations aujourd'hui très fines sur le territoire pour dire on en a beaucoup, pas beaucoup des gens, quels sont les chiffres, les statistiques qu'on a sur ces aspects-là, et maintenir, voire développer les services publics de l'emploi. Bon, là-dessus, c'est un des créneaux qui est le plus novateur pour les parcs naturels régionaux, et c'est celui qui s'interfère le plus avec d'autres compétences, d'autres collectivités, voire des services de l'État. Donc c'est là où on aura le plus d'articulation, et donc il faudra simplement, pour celui-ci par exemple, voir qu'est-ce que le parc apporte de plus, hein, comment éventuellement il est le relais des services de l'État, les relais du Conseil général, les relais des communes sur un certain nombre de projets, mais à la manière des parcs naturels régionaux, c'est-à-dire centrés, positionnés sur des thèmes comme la nature, les paysages, on parlait des chantiers tout à l'heure, l'habitat, la préservation de l'habitat caractéristique. Donc voilà, donc on a comme ça 29, vous n'aurez pas retenu, mais on va les rebalayer pour voir un peu comment vous sentez les choses. Et je voulais que vous ayez un peu la synthèse de tout ce que vous nous avez dit en 4 grands blocs de développement économique, et chaque grand bloc ayant entre 8 et 10 objectifs opérationnels, dans lesquels on aura peut-être 1, 2, 3 actions. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est on va rebalayer bloc par bloc, et puis vous nous dites si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'il y a dans ces blocs, s'il y a des choses importantes ou pas importantes, si on a bien retranscrit la sensibilité que vous aviez exprimée, soit en commission le 13 mars, soit lors des sous-commissions, et en même temps, vous nous disiez si vous pensez à une action phare ou symbolique et importante. Ce travail qu'on enclenche ce matin, vous le reprendrez en sous-commission pour le détailler un peu plus, pour aller dans un deuxième temps, plus dans le détail des types d'actions et puis des responsabilités et des acteurs concernés. On ne pourra pas tout faire ce matin, mais ce serait bien qu'on ait déjà une première température de votre part sur ces blocs-là. Ah, pardon. Merci. Voilà. Donc sur le bloc agriculture...
5-3. C'est en haut de la page. Il y a un grand trou blanc au milieu.
Là. Non, mais là on est. Non,
c'est tout à fait en haut.
Non, c'est qu'on a fait une petite bêtise.
Est-ce que je peux me permettre, avant qu'on rentre dans chaque point, un tout petit commentaire. J'ai une inquiétude quand j'écoute cela, c'est par rapport à la transversalité. Beaucoup d'éléments ont besoin de se coordonner. Ouais. Il y a une notion de label qui apparaît plusieurs fois. Ouais. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, dans le dernier point, où on parle d'éthique et de pas mal de choses, de préciser que ça serait important qu'en termes de gestion, d'emploi ou de ce que vous voulez, il y ait une vision de coordination et de synthèse entre toutes les actions. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça m'inquiète beaucoup.
Alors, c'est un peu normal que ça puisse vous inquiéter. Ce qu'il faut simplement, c'est... La question de la transversalité, en fait, elle renvoie davantage à comment on va gérer le parc, comment on va gérer la mise en œuvre de l'action. Et donc, habituellement, pour assurer ces transversalités, en fait, on ne dit pas... Il n'y a pas une orientation transversale, c'est... On intègre dans la manière de gérer et mettre en œuvre la charte cette question de la transversalité en faisant plusieurs choses, c'est-à-dire en disant on a des commissions de travail qui vont être chargées, je suis désolé, je fais une digression, mais sur la mise en œuvre d'un projet de charte, on a un syndicat mixte, donc un groupement de communes juridiquement responsable. Il est composé des collectivités locales uniquement, des élus locaux qui sont soit communes, un groupement de communes, le conseil général, le conseil régional. Est invité l'État, il n'est pas membre du syndicat mixte au sens, ce n'est pas une collectivité. Donc ça, c'est le conseil, pas le conseil communautaire, le conseil syndical, il prend des décisions, il dit au bureau, ben voilà, le bureau est chargé et responsable. Et donc on a des vice-présidents qui ont déjà cette première responsabilité, c'est de savoir qu'il ne s'occupe pas que VP agriculture forêt, il est VP agriculture forêt, mais il travaille avec son collègue du bureau qui a aussi d'autres préoccupations, le tourisme, etc. Donc, il est lui, normalement, déjà le lieu de la transversalité. C'est lui qui a la mission de cette transversalité. Il y a un deuxième niveau où il y a cette question de la transversalité, c'est les commissions. C'est-à-dire que l'élu VP d'un thème, peut-être même que lui seul ne peut pas gérer ça, et donc, du coup, dans les commissions, cette question de la transversalité doit être traitée. Donc, et ces commissions, comme elles sont plurielles, normalement, ben, il y a toujours quelqu'un comme vous, qui alerte, dit attendez, là vous êtes en train de mettre en place un truc, il faut réfléchir à ça. Donc la question de la transversalité, c'est à la fois un objectif transverse, c'est un objectif chapeau, parce que parce qu'on s'inscrit dans un agenda 21, ça c'est la grille de vérification de la transversalité. Donc il faut, c'est pour ça que je disais, il faut viser toujours le cœur, donc il faut que tout le monde ait dans son cerveau quand il réfléchit, il faut qu'il vise le cœur et non pas le thème principal. Et puis la deuxième chose, c'est le système de gouvernance. Et, si, et en plus des commissions dont je parlais tout à l'heure, il y a le système de concertation un peu plus global, notamment avec le conseil scientifique, qui lui va être aussi la mouche du coche et qui va dire attention, qui est pluridisciplinaire. On a des scientifiques, sciences humaines et sociales, sciences plus dures, ou ingénieurs. Et puis on a une organisation, une représentation des associations, alors ça c'est à définir. Mais voilà, donc en fait c'est l'ensemble de ces mécanismes-là qui s'assurent que cette grille-là est bien utilisée, donc que la transversalité est travaillée. Et dans la rédaction, souvent, vous avez vu, quand je dis agriculture, ça concerne aussi le tourisme. Quand j'aborde le tourisme, je dis, eh ben, ça concerne aussi l'agriculture. Donc il y a des bouts de transversalité qui sont gérés. Mais ce qui me semble important, c'est que tout le monde, et notamment par exemple au prochain forum, on refera une présentation générale, notamment de qu'est-ce qui a été dit à la commission sur la nature et les paysages, qu'est-ce qui a été dit à la commission. Donc cette transversalité se fait en permanence. Moi, ça me semble compliqué d'avoir un axe uniquement mettre en œuvre des actions transversales.
Alors concrètement, souvent, quand les choses évoluent, avancent, c'est au résultat que s'agrège quelque chose. Donc, par exemple, dans tout ce que vous avez dit, ces commissions, on se base sur de la bonne volonté. Mais qu'est-ce qui va faire que concrètement, il va y avoir un résultat de cette synergie? Et l'impression que j'ai, mais ça vient de mon expérience dans le privé, c'est l'outil de communication, la notion de label, la façon dont on va communiquer sur le parc va être de facto le résultat concret de cette synergie. Va être l'outil auquel on va pouvoir mesurer la capacité de rendre cohérent et transverse ce qu'on fait. On fait un label. S'il y a un label artisanat, et puis un label agriculture, et puis un label hôtelier, et puis il ne va pas y avoir de synthèse. Et on va avoir plein de gens qui vont faire un super boulot dans des tas de domaines différents. Or, si on a une ligne qui dit communication, et qui doit être une synthèse de l'ensemble, et ben ça va forcer à se mettre sur la table et avoir le résultat concret de ce travail. S'il n'y a pas un résultat concret, c'est facile de diverger. J'arrête.
Non, mais pourquoi pas. Enfin, moi, je raccroche surtout sur le volet communication. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y a... on verra ce que donne chaque commission et sous-commission, mais si chacune est sensible à cette question de la communication, à ce moment-là, on peut... Alors, je ne sais pas où on la mettra, parce que comme on est sur des rentrées thématiques, mais il faudrait effectivement qu'il y ait un programme de communication et de valorisation. Enfin, tout ce qui touche à la partie image, identité, etc., faire un axe de travail.
Et ça force les différentes sous-commissions à avoir un résultat commun. Et donc... à travailler ensemble.
Moi, j'aurais peut-être un élément de réponse aussi, mais plus sur la mise en œuvre, puisque par rapport à votre préoccupation, hein, c'est-à-dire en termes de coordination et de stratégie, au moment de la mise en œuvre des actions, est-ce que ce rôle-là, il ne peut pas être tenu justement par l'observatoire, hein, qu'on a évoqué, qui n'a pas vocation uniquement à recueillir des données, mais aussi à faire une analyse et à définir des stratégies.
Mais attention, j'ai toujours eu tendance à être sceptique quant à des commissions, un travail qui reste peut-être à usage interne. Donc, la notion de communication vers l'extérieur, c'est quelque chose qui vraiment oblige à se poser la question qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on le concrétise, et ça, c'est quelque chose qui va permettre de faire sortir vers l'extérieur une vraie synthèse. Donc, c'est peut-être tout à fait complémentaire. Je suis d'accord sur cette notion du travail de l'observatoire, mais il faut qu'il y ait un résultat tangible pour la population, pour tout le monde, pour que ça soit sûr qu'on travaille ensemble.
Mais un observatoire, il faut
que je propose, parce qu'on a eu 2 heures de travail, on a beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est un élément pas si anodin que ça. Je pense qu'on pourrait... Ça pourrait être anodin, parce qu'on pourrait dire, oui, mais la transversalité... Bon, c'est pas si anodin que ça, parce qu'en fait, et c'est Pierre Alain qui me ramenait aussi à la culture d'entreprise, on est sur des... par analogie, hein, on est un peu sur des processus de gestion de projet ou de gestion de procédures, etc. Et donc, ce qu'on pourrait imaginer, bon, c'est pas nos quatre axes, hein, mais peu importe, ça pourrait être nos cinq axes. Mais on pourrait dire qu'en fait, dans chacun de ces axes, bon, imaginez que vous avez l'économie, ça c'est l'axe 5, là c'est le culturel, etc. Alors, dans chacun, vous avez des choses qui sont communes du point de vue de la méthode, du point de vue des processus. Et là-dedans, on pourrait avoir le volet communication, le volet évaluation, c'est-à-dire à quoi on sert, qu'est-ce qu'on a comme résultat, qu'est-ce que ça permet. Le volet connaissance, et là, type connaissance, et là, ça renverrait à l'observatoire, à SIG. Donc, on a comme ça des fonctions qui sont toutes. Alors, quand on observe l'économie, on n'observe pas nécessairement la situation sociale, on n'observe pas comment évoluent les espèces, mais on observe. Donc, on a peut-être un outil commun, ça peut être un système d'information géographique, donc on est là, connaissance. La communication, on peut effectivement, dans chaque cas, chaque commission pourrait avoir en tête d'obtenir des résultats et de les suivre, ces résultats. Donc d'avoir une logique aussi de communication et de valorisation de ces résultats pour vérifier qu'on est... Et le fait de communiquer là-dessus, on aurait bien aussi un lieu, un lieu ou un outil transversal, de même que l'évaluation. Et donc en fait, cette ces fonctions-là transversales que chacun devrait avoir, il y aurait une obligation de communication, de gestion, d'appropriation par le système de gouvernance. C'est-à-dire que c'est les commissions, c'est le bureau, on communique, on rend compte. Et c'est un peu le lieu où on vérifie que tout ça continue bien à aller dans le même sens.
La gouvernance est responsable de la communication, on prend cet exemple-là. Elle est responsable d'un processus transverse de communication qui doit traverser l'ensemble à ce moment-là de l'économie, du social et de l'environnement. Et l'environnement, l'économie et le social, à ce moment-là, ces personnes-là doivent s'approprier des objectifs particuliers en communication. Et mais, donc, pour s'assurer simplement, c'est qu'effectivement, ça passe bien à travers et qu'on n'oublie personne et qu'on a toujours bien traité notre communication à travers l'ensemble de ces grandes thématiques. Sinon, effectivement, on les oublie.
Puisqu'on revient à la notion de gestion de projet, chaque groupe a des objectifs. On est tout à fait d'accord. Mais moi, quand j'ai un gros projet que je veux qu'il marche et qu'il y a énormément d'acteurs, j'ai des délivrables communs à des moments clés. Et c'est là-dessus qu'on se fédère. Et derrière, tout le monde s'organise et arrive à faire. Peut-être que le délivrable commun, ça peut être des brochures de com, ça peut être des pubs, mais je pense que c'est très important qu'il y ait un objet concret qui matérialise cette réussite des objectifs.
Ouais, c'est ouais, je pense qu'on va schématiser.
Ouais, là, on rentre dans de la méthode.
Oui. Ouais, voilà.
On va schématiser ça, mais la méthode, dans la gestion du projet, ça peut être des feuilles de décision qui ressortent de chaque commission. Et qui sont recentralisés.
Ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'éventuellement.
On a un peu tout ça en culture d'entreprise.
Voilà, pour ouais. Fait, c'est pour ça que j'ai mis plein de check act au niveau de la méthode, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que. C'est le seul en décision que je passe. On pourrait admettre que dans les commissions de travail, dans la matière de gérer, de mettre en œuvre les orientations et les objectifs opérationnels, on est tous à peu près le même canevas méthodologique, la même gestion de projet, avec à un moment donné les mêmes points de contrôle, les mêmes livrables, enfin, ce qu'on appelle les livrables dans le jargon, c'est-à-dire les documents ou les résultats, et qui est comme ça, mais qu'on est tous la même, qu'on soit là ou là-haut sur un autre axe, on est tous la même. Et du coup, ça permettra effectivement d'avoir. Des moments de vérification qu'on est bien en transversalité, etc.
Je pense que c'est important ce que vous soulignez. Je crois qu'on va essayer de schématiser, déjà pour se compter partout, parce que ce n'est pas forcément évident. Mais parce que c'est vrai que c'est un outil, à mon avis, qui est très important de savoir comment on va fonctionner. Et c'est simple, je vous garantis, c'est très simple. La seule chose, c'est que si on n'a pas fait le schéma et si on n'a pas essayé de transposer effectivement sur les actions d'un parc, et vous avez raison, on risque de partir dans tous les sens et d'oublier, je dirais, de l'essentiel.
D'autant que c'est un parc qui est fait d'un très grand nombre de communes, d'un réseau existant avec une histoire complexe, transverse, etc. etc. Donc c'est d'autant plus important de bien concevoir.
On va rentrer dans le sujet. Est-ce que tout le monde a rempli la feuille de présence?
Non.
Ouais, vous avez
un petit point. Je pense avoir saisi l'enjeu de cette réflexion, mais en même temps, il faut faire très attention aux modèles trop fermés ou trop carrés, quoi, qui sont sclérosants et qui par moment frustre certaines personnes parce que l'idée elle est juste à côté. Voilà, c'est tout.
Mais je sais que vous serez là pendant les 15 ans qui viennent, vous serez là, voilà. Donc vous nous rappelez à l'aurore.
J'espère.
Non, mais c'est pour ça. Mais ça renvoie à la gouvernance. C'est-à-dire celui qui va gratter un peu ou qui va hein, la bouche du coche, c'est
aussi ça. L'organisation et beaucoup de souplesse.
Voilà.
Oui, c'est marrant parce qu'on avait cette réflexion lors d'une réunion récente avec les élus pour un peu faire la synthèse de tout ça. Et le problème, c'est qu'il y en a toujours qui veulent beaucoup de concertation hein, et d'autres qui veulent beaucoup d'efficacité et d'action et de résultats tout de suite. Il y en a qui veulent beaucoup de théories, de concepts, de réflexions, etc. Et puis d'autres qui veulent des choses qui se voient. Donc c'est ça la richesse d'un parc naturel régional, c'est d'avoir cette variété de culture, de manière de faire et d'avancer, par contre, de se mettre sur l'horizon. Et donc c'est cet horizon dont je vous propose de parler maintenant. C'est quel est l'horizon vers lequel vous voulez tirer. Mais ça sera, les choses soient claires, on n'a pas mis à la porte d'entrée, bienvenue dans un monde serein et au milieu coule la rivière. Hein. C'est un parc naturel régional, c'est un lieu de vie. Et comme tout être vivant, ça crie ou ça, chacun vient défendre un peu sa culture, ses idées, et c'est normal. C'est ça la démocratie. Donc c'est un petit lieu de démocratie en plus des démocraties existantes, des autres outils de gestion de la démocratie. Alors, ce que je vous propose, on va essayer de passer une demi-heure par grand bloc, enfin 20 minutes, une demi-heure par grand bloc. Donc vous avez vu le libellé que j'ai exprimé là tout à l'heure en lisant ces blocs-là. Est-ce que sur le premier, agriculture et forêt, vous avez l'impression de vous retrouver? Il y a des choses qui vous choquent, il y a des choses qui vous manquent, il y a des choses qui sont mal... il y a des choses plus importantes que d'autres. Il y a des choses qui... Vous avez déjà des exemples d'actions. Moi, j'ai plein d'exemples d'actions, mais ce n'est pas mon territoire.
Dans la première, le 5-1-1, consolider le diagnostic, je suis d'accord, mais après, consolider la stratégie agricole et forestière, là, je me pose des questions, parce que est-ce qu'il y a actuellement une stratégie agricole sur ce territoire?
Il y a toujours une stratégie. Par contre, elle peut être soit... implicite, soit exogène. C'est-à-dire, quand la politique agricole commune vous dit un truc, bon, il y a une stratégie. Hein. C'est peut-être pas la vôtre, mais elle vient de là. Donc, c'est pour ça qu'on dit, bon, peut-être que... Ce que je veux dire par là, c'est que vous nous avez exprimé des grandes inquiétudes sur un certain nombre de situations agricoles, notamment sur la question de l'élevage, qui sont des inquiétudes partagées au plan européen, d'ailleurs. Et on ne sait pas trop, en 2013, enfin en 2014, comment, finalement, le tissu agricole va réussir à s'en sortir si vraiment ce qui est annoncé arrive. Quoi. Enfin, il y a déjà les prémices. La question qui est posée, c'est il y a des choses à mettre en œuvre en urgence, il y a des choses qui se font déjà par les politiques agricoles communes, par l'objectif, enfin par les orientations du FEADER, etc. Par des choses, il y a des gens qui... pas les aides européennes, enfin qui appliquent la réglementation et point barre, et après se débrouillent. Et bien en fait, le parc il pourrait soutenir un travail de réflexion et de mise en place d'une stratégie qui sera peut-être une stratégie plurielle, parce que on ne peut pas, je ne sais pas si j'en ai parlé un peu, mais on ne peut pas faire du 100% bio. Et pourtant, il faudra, sur le territoire, que vous soyez exemplaire sur un certain nombre de créneaux d'activité agricole. Mais en même temps, le parc n'a pas vocation à imposer un modèle agricole à un territoire. Il va encourager, il va soutenir éventuellement certains modèles, mais il n'a pas à imposer quoi que ce soit aux agriculteurs. Il va les aider quand certains sont volontaires pour aller dans telle et telle direction, si ça va dans le sens du Grenelle de l'environnement et de la Charte. Donc, moi, je pense que ça, c'est pas prêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les discussions qu'on a eues sur la question agricole montrent bien qu'on a des situations agricoles différentes, des points de vue des agriculteurs un peu différents, des situations très contrastées selon les orientations technico-économiques. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous propose que les premiers mois de travail, ça soit de réfléchir à quel est le modèle de développement agricole du territoire. Éventuellement en anticipation de 2014. Je fais à nouveau une parenthèse. Je ne peux rien. Non, mais c'est simplement pour
non, mais il faut expliquer la fin de l'année.
Pardon ? Oui.
Ça a du sens, quoi.
Oui, oui. Donc, elle a d'autant plus de sens que Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes et des chamboulements internationaux majeurs. Et du coup, enfin, je ne sais plus qui me disait, mais moi, je ne sais pas comment on va. Enfin, je suis incapable de vous dire quelle est ma stratégie à 5-10 ans. Quoi. Donc,
C'est pour ça que je vous posais la question, parce que pour moi, effectivement, bon, vous avez énoncé il y a le domaine de l'environnement, et après, par rapport à la stratégie agricole, l'impact de l'agriculture demain, ou la nécessité d'un certain type d'agriculture demain, je veux dire, effectivement, ce sont des points importants. Quoi. Donc moi, j'essaie toujours, par rapport au volet agricole, j'essaie toujours de raisonner en partant dans 20 ans, je veux dire, et puis de faire machine arrière. Quoi. Quels sont les enjeux dont on nous parle aujourd'hui de l'agriculture pour dans les 20 ou 30 années à venir. Et à partir de là, moi je raisonne comme ça, je me dis, bon, si je fais un rétro-planning aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que je sois dans les créneaux de ces enjeux-là, quoi. Et donc c'était par rapport à cette réflexion-là, parce que par rapport à l'agriculture, effectivement, moi j'ai l'impression que ça c'est plus un constat, mais il manque cette dimension prospective. Bon, la manière dont vous venez me l'expliquer, ça veut dire que dans les 6 mois que...
Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que cette phrase-là, ça vous va mieux ? C'est-à-dire que, moi, je considère que ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas nécessairement partagé par tous les exploitants du territoire. C'est-à-dire qu'il y a un travail de discussion pour réfléchir là-dessus. Parce que... Donc, l'idée, ce serait de dire, ben, dans les mois qui viennent, avant l'adoption de la charte et après l'adoption de la charte, il y a peut-être 3 ans de travail pour réfléchir, discuter ensemble et préparer une stratégie agricole et forestière d'anticipation de l'horizon 2020-2025. C'est-à-dire que... Voilà, donc il y a un groupe de travail au sein de la commission économique qui va, sur les mois qui viennent, éventuellement plancher, s'intégrer à d'autres groupes de réflexion, parce que ces groupes de réflexion, ils existent dans d'autres parcs, hein, y compris au ministère de l'Agriculture, enfin, on n'est pas tout seul dans notre coin. Donc, je pense que l'idée de créer ici un lieu de réflexion et de dialogue avec tous les exploitants, ça peut être... est-ce que ça vous va mieux, ça ? Non, vous, d'accord, j'ai compris. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres exploitants dans la salle, parce que je n'ai pas fait le tour de... Ça vous va ? Où sont les autres exploitants forestiers ou agricoles ? Ça vous va ? Ok. Bon. Donc là, l'idée concrètement, par exemple, ici, dans la rédaction de la charte, c'est le parc est un acteur... enfin, le syndicat mixte et ses organisations, commissions, etc., est un acteur majeur de la préparation du développement agricole des 20 prochaines années. Et donc, il s'engage à mettre en place une commission de travail, à recruter un chargé de mission agricole et forestier, s'intégrer dans les réseaux nationaux et européens de réflexion, et à élaborer dans les 3 ans un schéma de développement agricole et forestier. Voilà, donc, voilà, ça c'est la manière dont ça pourrait être rédigé. Et derrière, en termes d'action, on pourrait avoir... la mise en place d'une commission ou d'un groupe de travail spécifique, et ça coûte rien puisque c'est du bénévolat, enfin, ça coûte beaucoup aux gens, mais ça ne coûte pas en recrutement, enfin en recherche de ressources financières. Recrutement d'un chargé de mission agricole, ben, ça coûte 35 000 euros, 40 000 euros par an à aller chercher au ministère. Participer aux groupes de travail nationaux, européens, bon, c'est du temps du chargé de mission ou d'un élu ou d'un agriculteur. Bon, voilà. Donc, et puis éventuellement, recruter un bureau d'études spécialisé dans la filière ovine pour animer quelques éléments. Voilà. Donc ça, si on allait jusqu'au bout, ça donnerait un peu ça. Okay. Ça vous va ? Bon, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez, mais je veux sentir quelque chose qui ressemble à ça. On continue. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous... D'accord ? Je pensais l'avoir mis, c'est bizarre.
C'est un égoutillé peut-être.
Non, non, j'étais sûr d'avoir écrit le mot bio, c'est pour ça que ça me... Ah oui. Il est là-bas. C'est, on voit que le bio. Le bio est derrière. J'étais sûr d'avoir écrit. Donc, favoriser le développement d'une agriculture et d'une activité forestière dans le respect de l'environnement, prise en compte de la protection de la qualité de l'eau. Vous êtes un des ressources en eau les plus importantes pour le littoral, enfin, une ressource très importante pour le littoral, donc vous avez cette responsabilité-là. Développer des filières, développer de filières bio ou certifiées, etc. Donc, on est sur cette exigence-là. Bon, sachant que de toute façon, par exemple là-dessus, pour fixer les objectifs quantifiés de surface ou de masse de production, le Grenelle de l'environnement a demandé aux parcs naturels régionaux d'être un fort contributeur de l'objectif de, je sais plus c'est quoi, c'est 15% à 20% à 2000, à quel horizon? C'est 2020 ou 2015?
Non, non, c'est 2020.
2020,
c'est facile.
Voilà. Sauf qu'en région parisienne, on ne peut pas faire du bio, donc ça veut dire qu'il faut que les autres territoires aient un peu d'ambition. Mais du coup, ouais, sauf que ça on ne peut pas le décider maintenant. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moment où le document va arriver en analyse dans les ministères, ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Industrie, parce que l'industrie agroalimentaire est aussi concernée, quand il va arriver au Conseil national de la protection de la nature, il faut qu'on ait précisé l'ambition. Si vous dites on a bien pris en compte les exigences du Grenelle de l'environnement, point, c'est pas la même chose que de dire le parc sera un des très forts contributeurs, à ce jour il produit ou son territoire est couvert par 4% d'exploitants, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas les chiffres, 4% d'exploitants bio et 12% de la surface en bio. On souhaite doubler la surface et multiplier le nombre d'exploitants par 3 sur cette filière-là d'ici 2025. Bon, ça n'a pas la même gueule quand ça arrive au ministère ou quand ça arrive au CNPR. Si vous dites juste, ouais, bon, on verra ce qu'on peut faire. Mais, donc il faut essayer. Donc du coup, tiens, je fais une parenthèse sur le GIAC. Il faudrait qu'on ait le plus possible des éléments chiffrés dans les sous-commissions. Si vous pouvez avoir des chiffres un peu précis de quelle est la situation sur ces quelques, pas sur tout, mais sur, quand on parle de bio, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
C'est pas un problème dans les bancs. C'est trouver une commune où il y a 100% d'agriculteurs bio.
Oui, mais ça, je ne peux pas écrire. On ne peut pas écrire dans la charte. Il y a beaucoup de communes. Oui, tu sais, il y a beaucoup de communes. Non, il faut.
Non, mais ça, les chiffres, on les a. C'est pas un problème. Les chiffres, ils existent.
Donc, je le dis pour le bio, mais je le dis d'une manière générale. Ici, quand on va écrire là, le plus possible, avoir des objectifs quantifiés, des choses précises. Même si on ne va pas le faire sur tout, mais ça montre le niveau de l'ambition, le niveau d'engagement et déjà le niveau de concertation qu'il y a pu y avoir en amont. On ne pourra pas fixer les objectifs sur tout. J'ai bien senti quand même à certaines commissions qu'on ne pourra pas partager des objectifs dans la charte sur tous les thèmes. Mais par contre, il faut montrer, on en est là, on a encore beaucoup de chemin et la charte, elle propose d'avancer davantage. On a beaucoup de crispation entre les acteurs sur tel thème, on en est conscient, on l'écrit. Et justement, le travail du parc, ça va être de faire un pas en avant.
C'est vrai. C'est celui-là.
Sur cet objectif.
Celui-là, ça va être dur.
Donc bio, c'est bon? Donc ça vous va?
Oui, la prise en compte pour les actions, la prise en compte de la protection donc, de la qualité de l'eau. Donc ça, c'est un grand et vaste sujet dans les actions. Au sens, bon, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme action derrière? C'est quand même enfin, des éléments importants. Notre responsabilité, effectivement, est engagée par rapport au littoral.
Ouais.
Et on sait que, quelque part, une mauvaise protection, une mauvaise utilisation, je dirais, du territoire peut engendrer, je dirais, des pollutions irréversibles par rapport, je dirais, à cette fameuse qualité de l'eau. Donc je crois que dans le parc, il y a quelque chose d'important à mettre. Recensement des sources, vérifier les zones de protection, je ne sais pas. Elle n'est pas suffisante des fois.
Je pense que c'est important quelque part d'être un peu plus pointu là-dessus.
Oui.
Parce qu'il y a des appels à projets de l'agence de l'eau qui courent en ce moment. Oui. Nous, on est en train d'essayer de répondre à un appel à projet. Et au final, il y a une partie de cet appel à projet qui va couvrir une partie du parc sur lequel on travaille. Donc,
bon, pour exemple, il y a des conséquences parce que bon, la zone de protection des sources, elle est autour. Ceci dit, quand on est comme ça, on sait ce qui se passe au-dessus. Donc il y a des enquêtes, à mon avis, qui sont à faire au cadre du parc pour savoir quelles sont les conséquences éventuellement, on va dire, du fond supérieur par rapport, je dirais, à une source. Parce que sinon, ça ne sert à rien de la protéger aux alentours en disant, ça y est, j'ai mis un barbelé autour de la source, allez, dans l'hectare autour, si au-dessus, quelque part, on n'a pas réfléchi à la conséquence que ça peut avoir, je dirais, dans le fond inférieur.
Alors, on ne va peut-être pas le développer dans cette commission, puisque la ressource en eau est un des thèmes importants. C'est quasiment un bloc avec les déchets. Il y a 3-4 objectifs opérationnels dans la commission numéro 1, là, sur l'environnement, le paysage et la nature. Par contre, ici, et c'est de la transversalité, c'est comment les exploitants agricoles ou les exploitants forestiers, enfin les propriétaires forestiers ou les exploitants agricoles, contribue à cette prise en compte de la préservation de la ressource en eau. Et effectivement, bon, par exemple, on a mis en place la politique de l'eau du Conseil régional de Picardie. L'agence de l'eau a cofinancé un certain nombre d'actions pour soutenir les agriculteurs qui s'engageaient à un certain type d'utilisation, d'exploitation du foncier dans une surface beaucoup au-delà de la zone de protection de captage des sources, sur des surfaces avec un travail raisonné, une exploitation particulière, etc. De même que sur les forêts, on peut avoir le même contrat ou la même convention avec l'agence de l'eau qui cofinance, la région abonde, etc. Donc on peut imaginer que sur cet axe-là, sur cet objectif opérationnel-là, en fait le PARC soit celui qui va faciliter d'une part, qui va faciliter la concertation entre les exploitants agricoles, forestiers ou propriétaires forestiers qui veulent s'engager dans ce registre-là, l'agence de l'eau, le conseil régional et d'autres financeurs, les aider à mettre en place ces contrats locaux de préservation, de protection de l'eau. Donc ça pourrait être une action assez concrète. Mais je pense que dans la commission 1, ils risquent d'en parler. S'ils n'en parlent pas, nous, on peut, au titre de notre commission, proposer ce type d'action.
Moi, je crois qu'il faut absolument figurer dans notre commission, parce que l'agriculture et l'eau, forcément liées. Voilà, mais il faut bien, de toute façon, la protection des zones humides, par exemple, ça c'est un truc. Si on rejoint le tourisme, si on fait des bassins de rétention pour faire de la neige, par exemple,
la gestion en ressources.
Ouais. Et même aussi la protection des périmètres, ouais. Rapprocher, éloigner, dans la même du Var, on a la nappe phréatique la plus importante d'Europe. Bon, ben, la violence s'y fait, je veux dire, on sait qu'il faut la protéger, ou pas. Hein.
Ça va, dans le 5.1.2, ça vous suffit, ça vous définir et mettre en place des stratégies de soutien, valorisation et développement des activités de production agricole spécifiques permettant d'entretenir les paysages et contribuant à la gestion durable.
Mais si par exemple une agence de com de pub, ouais, qui sort des super plaquettes montrant les jolies vallées, les jolies machins, etc., mais que l'on montre pas qu'on a une agriculture qui est très particulière, parce que on va pas faire des champs de 12 hectares comme dans la Bosse, enfin de 12 000 hectares comme dans la Bosse. Intrinsèquement, notre agriculture, elle est proche de la nature. Elle est adaptée à l'environnement, et donc elle va être avec une très forte diversité qu'on peut retrouver historiquement. Il y a des coins qui sont spécialisés alors que c'est sur une surface relativement limitée, et respectueuse de l'environnement, parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est pour ça qu'il y a des restants, qu'il y a des pierres sèches, etc. Et ça, je trouve que c'est une identité que je n'ai pas ressentie comme étant fédératrice. Or, je trouve que ça aurait pu mériter. J'ai d'accord. Côté, parce que sinon, vous allez dire, je parle.
Je suis d'accord, mais il y a aussi un phénomène qui est quand même traité, c'est qu'on considère que certains milieux se sont fermés par faute d'agriculture, puisqu'aujourd'hui, je dirais, la problématique d'agriculture est un peu différente. On a du mal, les implantations ont du mal à se maintenir compte tenu d'un certain nombre de problèmes de concurrence européenne. Donc ce qui fait que aujourd'hui, ce qui a été traité en même temps là-dedans, c'est de pouvoir justement nettoyer ou entre guillemets réouvrir des milieux qui soient exploités, valorisés. Bien sûr que c'est l'agriculture qui va y contribuer, je dirais, énormément. Mais je crois qu'on s'y retrouve aussi quand on parle de soutien, de valorisation, de développement des activités. Donc, je crois que c'est tout. Par contre, c'est vrai. C'est un peu le passé que vous voudriez voir, cette valorisation du passé.
Et en même temps, c'est du futur. Non, non, moi je comprends. Parce que regardez, pour moi c'est du futur.
Oui.
On est en train de redécouvrir, bon, pour la discussion, est-ce que les AMAP c'est bien ou pas, non. Mais on est en train de redécouvrir l'intérêt de quelque chose de proximité, de goût différent, de diversité, plutôt que d'avoir toutes les mêmes fraises. Moi, j'ai vécu un an aux États-Unis, mais tard, c'est super leurs fraises. Hein. Elles sont les plus belles du monde et c'est immangeable, manger du carton. Donc on est en train de redécouvrir ça, et notre espace a une diversité, même sur le plan climatique, même qui va permettre de donner quelque chose que d'autres espaces ne pourront pas donner.
C'est d'accord.
Peut-être une question sémantique, mais c'est vrai que...
Mais c'est fondamental. Hein,
activité, production agricole, il n'y a jamais le mot agriculteur, voilà, quand bien que les hommes sont absents. Vous voyez, c'est purement sémantique, mais c'est vrai que quand vous lisez ça, c'est des filières, c'est tout un vocabulaire technocratique, en fait, un peu qu'on retrouve dans tous les chars, dans tous les machins. Et le mot agriculteur, le mot homme, l'humanité, on a l'impression qu'elle est sortie de tout ça. Mais c'est peut-être qu'un...
Non mais c'est important la rédaction.
Non mais ce que vous disiez, oui, moi je pense que vous avez entièrement raison, c'est dans le 5.1.3 là, où il y a marqué aider à la concertation entre le parc et les professionnels de l'agriculture. Je veux dire, le mot professionnel, moi, à mon avis, il faut
l'agriculteur.
Voilà. Est-ce que tout le monde se reconnaît comme est-ce que ce terme d'agriculteur est suffisamment large pour que les gens s'y retrouvent? Ouais, c'est bon. Non, moi je.
Non, parce que si on rajoute de professionnel, ça marginalise un bon nombre d'agriculteurs.
Ah non, mais professionnel, c'est gens qui.
Ça veut dire
de l'ISMI,
Moi j'ai quelques pieds de tomates dans mon jardin. Je suis pas exploitant.
C'est pas bon. Non, mais moi je pense que c'est par rapport à cette notion, par rapport au volet social, parce qu'on parle de réinsertion. Si on met le mot professionnel et qu'on dit on va développer une agriculture professionnelle, ça veut dire que tous les gens qui ne sont pas dans ce cadre-là ne pourront pas être considérés comme agriculteurs et donc on les met de côté.
Parce que vous êtes traumatisé par la DGA qui effectivement dit il faut pour être professionnel, il faut un diplôme, etc.
Donc je ne suis pas traumatisé du tout. Non, mais je veux dire, c'est pas.
Oui, une demi-essai.
On a un ministère de l'agriculture.
Oui, non, mais moi je veux bien mettre les agriculteurs.
Je me trouve plus dans le terme agriculteur que dans le terme.
Très bien, moi je le mets. Simplement, je ne vais en mettre aucun de côté. Quoi.
Enfin, le truc de l'exploitant agricole, il y a des super exploitants agricoles, les mecs qui possèdent la bosse, les exploitants agricoles, ils sont en place de l'étoile, ils ont jamais ils mettent la main dans la pâte, dans la terre. Quoi. Ah, vous voyez ce que je veux dire?
Si on peut s'occuper des notes déjà.
C'est plus proche.
Ceux de la bosse. Ils s'occupent d'eux-mêmes, à mon avis.
Ils n'ont pas de soucis.
Donc on met les agriculteurs, et le problème c'est que pour les gens qui travaillent avec la forêt, enfin qui travaillent de la forêt, ben non, parce que tous les forestiers, enfin tous les gens qui travaillent de la forêt ne sont pas des forestiers.
Ça pourrait être un drôle, parce que nous travaillons en forêt, alors on est assimilé agriculteur, on n'est pas agriculteur, donc on peut avoir certains droits, et bien souvent on nous dit non, vous n'avez pas le droit parce que vous n'êtes pas agriculteur. Donc on ne sait pas, on est entre deux chaises, on va dire.
C'est pour ça que je parlais des professionnels de l'agriculture et de la forêt, parce que là, au moins, normalement, il y a tout le monde.
Voilà, parce que ça suit partout, c'est ça. C'est bien beau de dire pour le PNR, on va retrouver tout le monde. Mais après, quand on va faire une demande, quand on va être devant des problèmes, je veux dire, qu'on soit agriculteur ou qu'on soit forestier, on n'aura pas forcément la même réponse.
Ouais.
C'est ça, c'est un peu dommage, parce qu'on cotise pratiquement partout pareil. Et on se retrouve vraiment dans une catégorie différente. Je veux dire, on n'était pas assez nombreux pour être représentés. Et ça fait qu'on ne sait jamais où on doit aller.
Et vous aimeriez être appelé comment?
Comment, voilà ce que je veux dire. Mais nous, moi, personnellement, je m'en fous qu'on m'appelle forestier, ou je m'en fous complètement. Ce que je souhaiterais, pour nous, c'est que, voilà, où on est avec les agriculteurs, on est super content, ou on n'est pas, mais pas de nous dire, suivant les besoins qu'on a, de nous dire, oui, là, on va vous faire passer comme si vous êtes agriculteur, et après, on va vous dire, non, pour ce phénomène-là, on ne peut pas vous faire passer comme les agriculteurs. Donc,
Mais je
sais très bien qu'on ne peut pas le régler d'ici.
Allez, c'est bon,
c'est
bon.
C'est bien.
Allez.
C'est pas la rédaction définitive. Hein, donc, simplement, je refais un... Il faut qu'on avance, parce qu'on en a trois autres derrière. Il faut bien que vous compreniez que le document qui va être signé, c'est un document qui va être approuvé par l'ensemble des conseils municipaux, par l'ensemble des conseils communautaires des groupements de communes, par l'Assemblée du Conseil Général, l'Assemblée du Conseil Régional. Donc c'est un document qui va vivre 12 ans. hein, donc à partir de 2013-14, c'est pour 2025. Donc c'est un document qui doit rester un cadre générique, qui derrière ensuite décline des programmes d'action pluriannuels, de 3 ans, de 4 ans, etc. Donc ce document-là, c'est un document cadre, on va écrire des choses qui ne bougeront plus pendant 12 ans. Donc il faut aussi travailler plutôt sur la philosophie, hein, on est un peu comme sur une constitution, la constitution, sauf que ce n'est pas la constitution d'un pays, c'est d'une nation, c'est la constitution d'un territoire. Et après, derrière, eh ben, on fera les choses plus programmatiques, plus techniques, etc. Donc il faut rester quand même sur un dessin un peu global. Et votre problème, à mon avis, il est fondamental. Et il faudra qu'il soit traité de manière spécifique dans le cadre d'action. On ne pourra pas le gérer, le mettre dans un titre. Par contre, c'est un élément fondamental qu'il faut que vous puissiez réexpliciter, retraiter. Il y aura peut-être un travail particulier. Parce qu'effectivement, le parc naturel régional a le droit aussi d'interroger la question du statut et de la place des gens. En fait. Parce qu'effectivement, c'est le lieu du dialogue. Hein. Alors, je vous propose les hommes et les femmes.
J'aurais une autre question à poser, ça reste un petit peu plus, je pense, sortir un peu du contexte. Ouais, mais, voilà, on parle de, comment dire, tout doit être naturel, user le moins d'énergie possible. Nous, en forêt, à l'heure actuelle, on est face aux plaquettes. Ça prend ça en vogue, je les connais, je chauffe aux plaquettes, ça marche pas. Ça, c'est un autre problème. Mais on dit, bon, ben, c'est écologique. Sur le principe, je suis d'accord, c'est écologique. Après, ce que j'ai un peu peur, c'est que, bon, pour notre région, c'est écologique. Parce qu'on a du bois, on se sert pas, c'est bien. Mais est-ce que toutes ces manipulations de bois, je veux dire, on a des arbres, on transforme un tout petit bout de bois, qu'on stocke, donc ça demande énormément d'énergie, énormément d'investissement. Tout ça qui met dans des chaudières, qu'on aurait pu mettre des bûches, et c'était réglé. Donc il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée pour faire quelque chose, on va dire, qui est plus écologique, on va dire. Mais ce sera écologique pour le PNR. Mais après, pour l'État, on va dire, de notre pays ou du monde au niveau de la pollution, est-ce que c'est vraiment intéressant de se lancer dans des choses pareilles? Et est-ce qu'il y a un bureau?
Alors, la pollution, c'est vrai que le chauffage de bois et les plaquettes, c'est super intéressant. L'autre intérêt des plaquettes, c'est que ça supprime des emplois, parce que si tu pouvais mettre des bûches, il faudrait payer quelqu'un.
Alors simplement, on ne va pas le trancher ce matin pour deux raisons. La première, c'est que c'est une action très spécifique. On ne peut pas ici dire. On va remettre à plat le modèle économique et écologique d'un système. Par contre, non mais on peut dire, alors pas dans cette commission, mais je l'ai écrit pour le donner à la commission, ce qu'on peut dire, c'est que le parc naturel régional, c'est le lieu aussi de réflexion sur les modèles, et qu'on ne prend pas pour argent comptant les modèles macroéconomiques qui ont été refilés par des filières qui, ça se trouve, sont des spécialistes de fabrication de chaudières à bois et qui ont inondé le marché de chaudières à bois.
Voilà. Est-ce qu'il y aura une structure dans le PNR pour dire, voilà, ça c'est pour moi écologique, pas seulement pour le PNR.
Il n'y aura pas une structure, mais là vous êtes en train de recruter un chargé de mission forêt, et vous pourriez tout à fait demander à ce chargé de mission forêt, si c'est une des priorités, de dire, il faudrait que dans les années qui viennent, la commission agriculture-forêt se rapproche de la commission énergie pour avoir un groupe de travail, pour mettre à plat le diagnostic énergétique du territoire, avec notamment une analyse un peu particulière sur la production énergétique, le système de production énergétique du territoire, et le cas échéant, définir un programme alternatif pour que le territoire ait un bilan neutre en émissions. Enfin, donc ça peut être une tendance. Donc ce qu'on peut écrire dans la charte, c'est, on ne l'écrira pas comme ça, mais on ne prend pas pour argent comptant les modèles, et on s'autorise la possibilité de réfléchir à des modèles alternatifs si on trouve qu'après analyse, voilà. Et donc ça veut dire, peut-être une commission, peut-être une étude, peut-être que d'ici là, il y aura des modèles économiques nationaux, européens, qui auront dit, de toute façon, les plaquettes, c'était pas la bonne chose, comme on s'est rendu compte que la fabrication d'agro-ressources...
C'est
le principe, à mon avis, c'est le principe.
Vous pouvez trouver des problèmes similaires.
Ok, non mais compris. Voilà, on ne va pas le traiter ce matin parce qu'il faut qu'on passe à l'autre.
Je voulais juste faire un commentaire. Voilà, globalement,
globalement, je suis assez d'accord avec tout ce qui est écrit là. Par contre, je ne retrouve pas les questions qui ont été soulevées à la sous-commission et qui ont fait l'objet de débats. Le foncier, ou alors je ne dis pas bien, mais c'est vrai que je suis un peu loin. Le foncier, l'eau, là, quand on parle d'eau, c'est uniquement protéger la ressource en eau pour le littoral, mais nous, notre accès à l'eau en tant qu'agriculteur, pas trop. Et puis la question qui avait fait débat sur les grands mammifères, et là, carrément, il n'y a plus rien. Alors, ça nous avait bien occupé. C'était central.
Ça a dû tellement vous occuper que la personne qui saisissait n'a pas du tout saisir, parce qu'elle devait être tétanisée, et du coup, on n'a pas tous les détails. Alors, sur le foncier, c'est bizarre, parce que c'est pareil, moi, je l'ai vu, mais je ne l'ai peut-être pas retranscrit. Ah non, mais parce que le foncier, on l'a raccroché à la commission. Il y a la commission aménagement de l'espace. Voilà. Mais par contre, on peut le remettre là. Alors, on va revenir sur le foncier. Par contre, sur l'eau, je pense que c'est là-dedans. Hein. C'est la ressource en eau. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question de protection, c'est aussi comment on gère la ressource en eau. Hein. C'est la gestion de la ressource en eau. Gestion, c'est pas que limiter. C'est comment on l'exploite, parce qu'on en a besoin pour travailler en tant qu'exploitant. Alors, je sais pas quelle est votre activité, mais...
C'est parce qu'en fait, la question, c'est qu'il y a plein d'endroits, je sais pas, dans la zone dans le nord du parc, où en tant qu'agriculteur, on n'a pas accès à l'eau. Il n'y a pas de tarif agricole, il n'y a rien. C'est pour ça que les fraises, ça me faisait un petit peu sourire, parce que les fraises, si on paye l'eau au prix de l'eau qu'on met dans le pastis, c'est pas jouable. C'est une vraie impossibilité. Vous n'avez pas d'eau, vous ne faites rien. Et même pour vous les faire boire les brebis, c'est pareil.
Ça, je vous semble, c'est un bon tour dans la commission.
Et la question des grands mammifères, là.
Ouais, c'est les grands mammifères, par contre, qui ont disparu.
Alors, mais je comprends bien, parce qu'il n'y avait pas de consensus. Hein.
Non, mais je vais voir comment.
Par rapport à cette histoire de grands mammifères, si je me souviens bien, à la réunion, on avait dit que c'était un pôle qu'on n'arriverait pas à traiter.
Non, par contre, je peux le remettre.
Pour les grands mammifères,
c'est ça la... Ouais, ouais.
Ouais, les loups, les chevreuils, les cerfs...
Je pense que c'était partie aussi de la gestion des stratégies à
mettre en place. Bon, écoutez, je ne sais pas où le mettre, je l'ai noté, puis je vais voir comment rédiger. Ça sera soit sur l'objectif opérationnel, soit dans la rédaction derrière, en fait. Mais je pense que ça pourrait être attaché au 5.1.3 sur... la concertation, parce que le problème de la gestion des mammifères, ça concerne les exploitants agricoles, ça concerne les chasseurs, ça concerne l'État, parce que vous ne tuez pas un loup comme ça, hein, il y a quelques espèces un peu protégées dans le monde. Donc on est sur l'aide à la concertation sur la gestion optimale de l'espace agricole forestier. Hein,
mais à ce moment-là, ça serait bien de stipuler et la chasse, parce qu'eux aussi ils ont un rôle à jouer là-dedans.
Non, on a démontré dans la commission que le rôle de la chasse n'avait pas été efficace.
Non, stop, on passe au deuxième. Par contre, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut que l'ensemble des interlocuteurs soient autour de la table et les chasseurs doivent être autour de la table. Donc, après, on verra quelle est la méthode, mais. Je vais quand même mettre.
Ah putain, chasseur, 3 petits points. On n'est pas 3 petits points.
Non, mais les autres usagers de l'espace, de cet espace agricole et forestier. Chasseurs, tourisme, opérateurs touristiques.
Non, c'est les touristes, c'est pas les opérateurs.
Ah non, on est opérateurs.
Est-ce que j'ai dit un gros mot?
Respect.
Non, mais activité, c'est pas un monsieur ou une madame. Activité, c'est une nomenclature économique.
Chasseur-cueilleur.
Hein? Bon, allez, allez, c'est bon. Chasseur. Alors, vous, qu'est-ce que je mets pour les touristes?
Mettez rien, les autres usagers de l'espace, ça suffit.
Non, mais après, vous allez me dire que j'ai pas parlé des chasseurs.
Non, on n'a rien dit.
Mais quelqu'un dit, moi, je fais que bénique.
On fait une rotation, on visite.
Bon, allez, on avance. On est
11h10.
On
est là jusqu'à minuit, c'est bon.
Non, j'ai particulièrement tôt ce matin, donc...
Si les chasseurs disparaissent, vous allez avoir beaucoup plus de sangliers, beaucoup plus de grands...
Ah mais attendez, croyez pas, je suis contre les chasseurs, moi. Il en faut. Non, c'est le monsieur, là. On a qu'un point commun, on est tous les deux apiculteurs, mais lui, il aime pas les... Moi, je les aime bien en civet. Les grands machins.
Le tourisme, c'est une autre partie de plaisir. Donc, définir une stratégie de gestion et de développement maîtrisé d'activités touristiques cohérentes, c'est ce que j'ai mis à côté, avec le respect du territoire, de l'environnement et de ses habitants. Alors sur le tourisme, est-ce qu'on a bien réécrit ce que vous nous avez dit? Enfin, est-ce qu'on a bien traduit vos enjeux? Est-ce qu'on répond bien à vos enjeux par ces orientations-là? Oui, on est deuxième bloc là. On est sur les activités de tourisme et de loisirs.
Moi, je pense que Alors, si c'est maîtrisé par nous, nous habitants des vallées, ça va. Mais la crainte, c'est que ça ne soit pas maîtrisé par nous.
C'est maîtrisé, je redis, ce qu'est un parc naturel régional, c'est un projet commun qui essaye de faire du consensus. Donc, ce n'est pas la gestion particulière cumulée de chacun. Moi, j'ai ça. Donc, c'est maîtrisé par le projet de territoire et par les outils de gouvernance et de gestion. Donc, la maîtrise, ça veut dire simplement que, à un moment donné, pendant un certain nombre de mois, voire des fois, une charte de tourisme durable, une charte européenne de tourisme durable, ça peut prendre 2 ou 3 ans, hein, entre définition de la stratégie, définition du plan d'action et commencer à mettre en œuvre les actions. Donc, ça peut... Par contre, c'est fait avec tout le monde et avec un minimum de consensus. Et à un moment, il y a un arbitrage, c'est tranché. Donc cette maîtrise, c'est éventuellement à l'issue de ce travail de réflexion que, par exemple, dans les plans d'occupation, dans les plans locaux d'urbanisme, il va y avoir un outil. Enfin, dans le zonage, on va maîtriser cet espace-là pour qu'il soit maintenu dans tel ou tel, enfin, qu'il permette le développement de telle ou telle activité d'escalade le long d'une falaise. Voilà, on a bien mis dans le plan d'occupation, dans le plan local d'urbanisme, que cette activité est possible. On est sur un espace, mais ça a été négocié avec les propriétaires de cette falaise et des terrains, les agriculteurs qui sont au-dessus, les habitants des quelques hameaux qui sont dessous. Voilà, c'est maîtrisé parce que ça a été dialogué, discuté.
Nature à
2000, etc.
Ça a l'air
de rien,
grimper une falaise. C'était le bordel parmi les oiseaux.
C'est clair.
Pas toujours. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une
concertation. Voilà. Le tourisme, en même temps, il a besoin d'une offre. Le tourisme a besoin d'une offre dans un territoire. Donc je pense que dans le parc, il y aura une offre qui sera, à mon avis, envisagée. En fonction à ce qu'on a déballé, en fonction du potentiel touristique, naturel, architectural, enfin culturel. Donc c'est cette offre-là. Et on le voit bien là-dedans en même temps, donc maîtriser, c'est-à-dire que, savoir quels sont les potentiels, mais maintenant qu'est-ce qu'on veut dedans et jusqu'où on veut aller pour les introduire au circuit quand même.
Pour bien vérifier qu'on a la même sensibilité, je prends un autre exemple, parce que la cascade me fait frapper, c'est avant, si on a des écoles, ça n'a pas de manche. Bon, vous favorisez le tourisme. Il suffit que vous ayez un sentier qui passe à côté et que 20 touristes passent là, vous n'en aurez plus jamais. C'est tout bête. Donc, cette notion de maîtriser, c'est comment je canalise les flux que je vais créer. C'est pas piquer des hameaux.
Concertation, justement, les concertations, savoir qu'elles existent. Mais si effectivement on ne sait pas, et que c'est un lieu, je dirais, hautement touristique ou un passage qui est incontournable, il est certain qu'on va avoir quelques soucis. Donc, toutes ces concertations et savoir justement quelles sont les richesses et les valeurs ou les choses à préserver dans ce territoire.
Sans
la maîtrise, elle, c'est ça que ça veut dire.
Dans ce sens,
c'est vous allez vous mettre autour de la table et vous allez identifier ensemble s'il y a des sites hyper sensibles. Si on a des crevisses à pattes blanches, c'est clair, de toute façon, il doit être classé, ça se passe là. Il est gros. Non, non. Ben voilà, donc il y a peut-être.
Où sont-elles?
Il y a peut-être sur certains, il y a peut-être sur certaines parties du territoire des zones très sensibles, hypersensibles pour des questions d'espèces animales, des questions d'espèces végétales qui n'ont pas été encore identifiées ou qui sont dans une nièvre mais qui n'ont pas encore été fait l'objet d'un programme de gestion. Bah, à côté des plans de gestion des sites Natura 2000, des DOCOM, bah, à côté de ces sites-là, il y a peut-être d'autres sites sur le parc qui disent bah, « si, si, on va... » Il y a trois agriculteurs qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés pour essayer de voir comment gérer cet espace. C'est pas un site Natura 2000, mais on veut, en tant que parc, essayer de se mettre d'accord sur une manière de gérer ce bout d'espace. Donc ça, ça c'est un des exemples. Mais je ne peux pas vous dire lesquels, où et quand. Et c'est ça que ça veut dire. Définir une stratégie de gestion et de développement, elle est maîtrisée. Donc c'est pas « allez-y », comme aujourd'hui. Aujourd'hui, en gros, c'est chacun, accueille, accueille pas, laisse ouvert, subit les dégradations ou pas. Là, l'idée, c'est d'essayer un petit peu de canaliser, de maîtriser. On ne pourra pas tout faire, mais mettez-vous d'accord sur un schéma global de développement. Quel modèle de développement économique touristique vous voulez sur le territoire? Et ça, encore une fois, vous n'allez pas le faire demain matin. C'est-à-dire que ça prendra bien, à mon avis, un an ou deux. Quoi, hein.
Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, le rôle de la Fédération contre l'escalade, c'est essayer de trouver justement ces zones de développement pour éviter qu'il y ait un développement anarchique. C'est peut-être utopique, mais en tout cas, c'est une volonté. Aujourd'hui, effectivement, c'est ce que vous dites. Même en zone Natura 2000, il y a de l'équipement qui se fait de manière informelle. Parce qu'il n'y a pas de zone.
Et une partie de vos ressortissants, de vos adhérents, c'est des écolos. Hein, pas tous des sauvages.
Il y a des pratiquants fédérés, et on en a déjà parlé, mais aussi des pratiquants non fédérés, voire qu'on ne peut pas considérer comme des types. Hein. C'est des consommateurs. Mais ça, pour cela, par exemple, on pourra y faire. Je pense que vous avez quand
même. Si, vous pourrez. Bien sûr, le parc, il peut décider de s'occuper de ça.
Oui, je veux dire, on a une reprise qui est plus difficile sur des gens qui vont à la baignade et qu'on assimile, par exemple, à des canyoneurs qui, eux, sont fédérés, conditionnés, entre guillemets, sur le cas structuré.
Mais la vocation du parc, c'est d'avoir un lieu où on a différents acteurs qui vont être capables d'accompagner ça.
La fédération, c'est vrai que vous avez peut-être ressenti comme une critique vis-à-vis de la fédération. Au contraire, je trouve que les choses se passent très bien. C'est quand on est hors de structures fédérantes et qui permettent la maîtrise, là, il se passe n'importe quoi.
Mais il y a quand même tout l'outil de communication, d'information, de sensibilisation du parc qui est là pour apporter une régulation à certains problèmes.
Oui,
c'est un enjeu du parc.
Et les ambassadeurs aussi. Vous êtes tous les ambassadeurs de cette idée-là, parce qu'en gros, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, je vous forme. Enfin, on vous forme là, depuis quelques mois.
C'est gratuit.
Voilà, c'est gratuit. Vous remercierez le parc, c'est le parc qui paye. Enfin, c'est la région, le parc, etc. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes en train de vous approprier des idées de votre voisin, des idées de certains acteurs, et vous allez être porteur de certaines... Vous n'allez peut-être pas adhérer à 100% de ce qu'on est en train de se dire au fur et à mesure des réunions, mais n'empêche qu'à un moment ou à un autre, vous allez le ressortir, soit à table en mangeant avec les copains, soit au bar, soit lors d'une sortie pédestre, c'est randonnée. Donc vous êtes des démultiplicateurs d'opinion de cette idée de parc naturel régional. Donc c'est aussi vous qui allez, même s'ils ne sont pas adhérents à votre fédération, indirectement, vous avez des contacts avec eux. Et puis vous, votre fils ou votre fille qui joue au football, peut-être qu'un jour, parce que l'école primaire dans laquelle il est a eu une classe verte avec le parc, il a des idées qui se sont déjà, et puis ils vont en parler entre eux. Moi, mon gamin, j'ai rien fait sur l'environnement, et il a fait 3-4, il a une institutrice, alors que je suis à Montpellier, et que pas dans la nature comme ici. Et ben, il me ressort, c'est lui qui me dit papa, t'as déchetterie, compost, machin, il me harcèle. C'est cette culture, cette identité qui se fabrique.
Mais ce que je voulais juste te dire sur ce point-là, c'est quand même la mobilisation du syndicat mixte et de configuration, c'est quand même le contre-exemple qu'on a direct du littoral. C'est-à-dire où le tourisme n'a pas été maîtrisé, et c'est à nos portes. Et on sent qu'on a cette pression, nous, l'ensemble des élus qui sont aux portes de ce littoral,
Et si le parc, si on ne se met pas tous autour de la table pour justement avoir cette maîtrise, ça va être très compliqué. Et ça, c'est vraiment, je pense, un enjeu primordial. Et moi, je sens cette mobilisation par rapport à ça aussi.
Je pense que c'est ça. Le truc, c'est que de toute façon, les touristes arrivent.
Et oui, ils sont là.
Ça veut dire le balcon de la Côte d'Azur. Et si on veut le préserver,
il faut s'en occuper maintenant.
C'est la condition sine qua non.
On est d'accord. On parle bien de la vie.
On commence à voir ce que ça donne.
Bah, j'ai deux prises de parole.
Je pense que les principaux enjeux touristiques, à savoir tout ce qui concerne la carence en termes d'hébergement et tout ce qui est développement d'activités de pleine nature, sont bien retranscrits. Sauf que je trouve qu'il y a, bon, il y a plusieurs répétitions, je pense qu'il y a des points qu'on pourrait synthétiser. Hein, parce que je trouve que,
3 et 4 par exemple.
Oui, voilà. Ouais. Sur tout ce qui est activité touristique, je pense qu'on pourrait synthétiser quelques points. Donc on voit bien qu'il y a, sur tout ce qui est offre, c'est très bien, ça a très bien repris tout ce qui a été dit en commission. Par contre, sur tout ce qui est, monsieur a parlé beaucoup de communication. Et il me semble que le parc a vocation à être justement l'ambassadeur de son territoire, de vendre un territoire authentique, etc. Donc, sur tout ce qui est communication, promotion, bon, est-ce que c'est retranscrit là dans tout ce qui est label, dans le point numéro 8 je trouve que ce point-là, peut-être qu'il pourrait être davantage exprimé ou mis en valeur. Je ne sais pas si c'est une volonté de.
Non, je pense que on l'a peut-être mis moins en valeur parce qu'on est au début du processus et que pour faire de la promotion ou de la valorisation de quelque chose, il faut l'avoir déjà un peu structuré. C'est-à-dire, si vous faites de la communication à la Montpellier-Rennes, hein, fraîche, il a fait de la com, il n'y avait rien derrière. Hein.
Regardez,
sauf que là, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on parle quand même, on est sur un label un peu exigeant. Comment ?
La com est bonne, Pierre.
Je pense qu'aujourd'hui. Je vous donne pas la parole. D'abord ici, Pierre Pelle.
C'est simplement au niveau de la terminologie, ce qui me gêne un peu, c'est le terme tourisme. Parce que dès qu'on parle tourisme, moi personnellement, je le ressens comme étant de l'agression de la part des populations locales. C'est-à-dire que le touriste, c'est celui qui vient de l'extérieur. Mais on peut tout à fait faire aussi du tourisme. On peut être habitant du lieu et être pratiquant des activités de pleine nature. Là, le problème, c'est que là, c'est. Moi, je le comprends là, touristique, développement touristique. C'est comme si c'était les étrangers au département ou les étrangers au territoire. Qui sont des envahisseurs, qui viennent du littoral, mais ça peut être des habitants gallois,
je verrai. Pardon,
moi je pense que la terminologie de tourisme me convient, moi, pour moi, parce que moi on voit bien une certaine population qui est à éduquer et qui vient de l'extérieur. C'est celle-là qui doit être aujourd'hui, on doit faire la communication, on doit informer, on doit leur apprendre tout. Ce que c'est que ce territoire dans lequel ils vont et qu'on veut leur donner cette image. Vous êtes à l'intérieur, celui qui est à l'intérieur, quelque part, il aura besoin de cette formation, de cette éducation. Mais si celui-là, j'ai plus un danger, je pense que le terme convient bien.
Alors, je suis pas contre le.
Après, oui,
il faut bien distinguer les deux types de.
Ouais. Il y a des objectifs opérationnels qui visent une cible prioritaire que sont les touristes, mais il y a des objectifs opérationnels qui visent. Deuxième cible plus large, plus ouverte, que sont à la fois les pratiquants du tourisme exogène. Alors en général, une clientèle touristique, il faut qu'elle héberge, enfin, il faut pas que pour une journée, mais bon, on ne peut pas rentrer dans ces détails-là. On va dire que le touriste, pour vous, il vient de l'extérieur, et les habitants, ils pratiquent des loisirs. C'est très schématique. Hein. C'est pour revenir sur ce que vous disiez. Je pense qu'il y a certaines actions qui sont quand même très fortement orientées sur les touristes parce qu'il y a quand même un sentiment de menace, de pression très fort. C'est pour ça que la question de la sensibilisation et de l'éducation des touristes est un élément important. Mais il y a d'autres thèmes qui concernent tout le monde, y compris les habitants. Soutenir le développement de la relation touriste, développer une politique de labellisation au sein du parc afin d'en valoriser les productions et les savoir-faire, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que les touristes. mettre en place une gestion concertée des activités de pleine nature. Les activités de pleine nature, y compris motorisées, ça concerne les gens qui y habitent. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a un peu focalisé sur tourisme, donc sur population exogène, mais il y a d'autres aspects qui concernent tout le monde, y compris les habitants. Quelqu'un avait levé la main avant vous ? Non ?
Dans le 523, sous le développement à la mer, des hôtels, des tables, des... Je ne trouve pas le tourisme qui fréquente pas mal le palais, là, c'est les camping-cars avec les plateformes de garage, qui vont passer les nuits, monsieur. Et puis de profiter de leurs effluents, parce que c'est les gens, finalement, c'est un tourisme, en fait, qui reste sur place, consomme pas mal les petits
circuits. Oui, tout à fait.
Ils ont du mal à trouver les emplacements, et bien souvent, les emplacements sont vachement éloignés de l'un à l'autre. Et donc les camping-cars.
C'est ce qu'on appellerait l'hôtellerie de plein air, ou quelque chose comme ça.
Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais.
Non, c'est qui les spécialistes du tourisme dans la salle ? Hôtellerie de plein air ? Pour tout ce qui est camping, camping-car.
Mais bien sûr, circuler camping-car, parce qu'il y a beaucoup de camping-car par chez nous. Et je trouve que
okay.
On n'y porte pas assez attention.
Ouais, tout à fait.
Ouais. J'aurais une petite question. Donc, on parle de socialiser les touristes. C'est une bonne chose. Mais dans tout ce tableau, on n'a pas pensé à... Moi, je pense qu'il manque par exemple des gardes. Il va falloir des gens pour sauver tout ça, tous ces touristes, parce qu'on va leur dire faites attention à ça, faites attention à ça. Ils vont dire oui, mais une fois qu'on va les lâcher, il va falloir quand même des gens qui fassent ça. On ne peut pas lâcher tout ce qui est déjà en disant ils sont plus gentils et ça va bien se passer, parce que ça ne va pas bien se passer.
Ça coûte très cher, les équipes vertes, ça coûte très cher.
Non, mais de toute façon, ce projet, il va coûter énormément d'argent. Je veux dire, donc, on va être obligé de mettre. Des structures de garde en place, que ce soit au biais de l'ONF, que ce soit au biais de je ne sais pas comment, mais vous ne pouvez pas lâcher les gens comme ça en disant bon, vous n'avez pas le droit de camper, ils vont vous dire oui, mais une fois qu'ils sont partis, ils vous allez vous retrouver avec des bouteilles partout, avec ce papier partout.
C'est déjà le cas.
C'est déjà, oui, mais bon, là on part sur un parc, et je dirais un parc, il faut quand même qu'il y ait des gardes.
Non. Dans un parc naturel régional, vous n'avez pas nécessairement des gardes.
Il faut des gens qui sont là.
Il y a plein de parcs qui n'ont pas. Non, mais ça coûte très cher hein, d'avoir. Les parcs qui sont un peu mûrs, qui ont 30 ans d'âge, ils ont réussi à dégager des financements et ils ont des équipes permanentes de garde.
Donc, à l'heure actuelle, il n'y aura personne pour gérer tout ce monde.
Je ne sais pas. Si effectivement il y a un accord sur le financement d'une équipe. Parce que quand je vais commencer à annoncer les chiffres du coût de fonctionnement d'une équipe comme un syndicat mixte, en gros, un syndicat mixte sur un projet comme celui-ci. Sur les 10 premières années, il faut une équipe minimum de 15 personnes. Donc, vous voyez le budget de fonctionnement. Alors, attendez, je termine. Donc, c'est une équipe technique qui tourne et qui veut vraiment mettre en place un projet ambitieux comme ça. C'est une équipe de 15 personnes, administratifs et ingénieurs ou chargés de mission qui vont s'occuper d'animer. Coordonner des actions, d'animer les réunions, de les organiser, d'avoir des relations avec les professionnels, d'aller sur le terrain, etc. C'est du boulot, hein, quand je vois ce que Muriel fait toute seule en ce moment, sur les genoux, hein, tout de suite. Donc, elle ne s'occupe que des réunions. Et du coup, elle n'a pas le temps de s'occuper d'autres choses. Donc, ça demande quand même du personnel. En général, pour le fonctionnement d'une équipe comme ça de fonctionnement, sur un budget à la fois personnel et puis équipe, on arrive à faire en sorte que les communes prennent en charge, ils ont 8-10% des coûts de fonctionnement, et le reste, ben c'est 40% le conseil régional, 30% le conseil général, et puis des crédits d'État. Si on rajoute à une équipe pour gérer ces 5 grandes familles qui elles-mêmes se déclinent en une quinzaine de sous-familles, donc on a ces 15 chargés de mission qui vont prendre en charge ça, si on rajoute une équipe de garde, équipe de garde qui tient la route, c'est une équipe de 3-4 personnes minimum. Hein. Ça revient très cher, surtout sur un grand territoire comme ça. Donc, moi, je serais d'avis de dire que...
Il n'y a personne qui est capable de mettre la loi en place.
Non, mais j'ai pas dit. Non, mais on est d'accord. Sur le constat et sur le diagnostic, on est d'accord. Et les 45 territoires de parcs naturels régionaux en France font le même diagnostic que vous. C'est-à-dire la problématique de la gestion, de l'application de la loi sur les chemins et l'utilisation des engins motorisés sur ces chemins. La loi, elle existe. Il suffit de l'appliquer. Sauf que vous n'avez pas un gendarme dans chaque sentier ou un agent assermenté pour le faire. Et ce n'est pas possible. Donc il faut mettre en place. La chose la plus simple et la prioritaire, c'est le travail de sensibilisation, de négociation, de médiation, d'information, de dialogue avec les parties prenantes, ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, c'est de mobiliser les ressources des gens qui ont du personnel sur ces questions-là, c'est-à-dire créer des relations de confiance entre les mairies, les postes de gendarmerie, donc les gens qui ont la force, qui sont force de loi. Voilà, faut déjà faire fonctionner ça. Et puis après, si on arrive à dégager du personnel permanent peut-être sur des sites prioritaires, on pourrait déterminer très bien. Mais moi, ça m'ennuie de mettre dans un objectif opérationnel qu'on met en place une équipe verte, parce que je suis pas sûr que dans les 12 premières années, vous soyez capable de dégager le financement pour cette équipe verte. Si in fine, dans les mois qui viennent, au terme de la concertation, tout le monde est d'accord pour financer une équipe de garde verte, et ben elle sera mise. Mais ça m'en est de le mettre dans un objectif opérationnel, parce que l'expérience montre que c'est coton à obtenir et que c'est au bout de 20 ans qu'on arrive à obtenir ce genre de choses. Voilà. Mais on peut le mettre dans le texte. Et le parc n'exclut pas la possibilité, dans la période des 12 ans qui viennent, la possibilité de mettre en place une équipe dédiée à la médiation sur le terrain, au moins pendant les périodes estivales, ou je ne sais pas quoi. Mais on arriverait déjà à aider les communes à réemployer de temps en temps des gardes champêtres, ce serait déjà pas mal.
Oui, mais ça reste limité. Je veux dire, un garde champêtre, c'est rare que. Bon, il a du boulot sur toutes les communes, c'est vrai que c'est des gens qui sont assez débordés. Je veux dire, moi, je pensais plutôt, vous avez le lac de Saint-Cassien, j'ai l'été, ils ont des gardes à cheval. C'est sûr que ça coûte de l'argent. De toute façon, vous voulez faire un PNR, ça va coûter de l'argent. Bon, d'un côté, ça va créer de l'emploi. Mais on ne fait rien sans rien, je veux dire. Amener des milliers de gens dans des zones, soit en forêt, soit dans plein de sites, je veux dire, les gens, je veux dire, on le sait tous, je veux dire, même si ils sont de bonne volonté, quand ils seront passés pour deux ans, vous allez avoir des gens partout qui vont traîner.
Parce que par rapport à cet aspect sensibilisation des touristes au respect de l'environnement du territoire,
je ne parlais pas tous en même temps.
Je me posais la question par rapport, puisqu'on ne pourra pas avoir des gardes tout de suite, s'il ne faudrait pas rajouter par rapport donc, à la sensibilisation, mais il n'y a pas un aspect signalétique.
Ça, c'est pas une action.
Non, mais je ne sais pas, c'est parce que dans la sensibilisation, ok, ça invite la sensibilisation. Ça peut se faire en salle, ça peut se faire à l'entrée du parc, mais après, il faut qu'il y ait un minimum de signalétique derrière, parce que les gens vont tout oublier.
Oui, oui, mais on va élargir un tout petit peu le titre. Ça serait informer, sensibiliser. Informer, sensibiliser. Faudra trouver un terme un peu plus fort que sensibiliser. Et quelque chose, je trouverais. Les touristes, au respect du territoire, etc. Et derrière, il y aura des actions qui sont soit des actions humaines, soit des actions physiques d'information.
Juste pour préciser, choqué, dans mon esprit, pour revenir sur touriste, c'est une mission de touriste.
C'est
la personne qui risque de mal se comporter, c'est celui qui est pas, qui est aujourd'hui qui va s'approprier un territoire sans la pomme et sans respect. Donc quand je dis soit, je veux volontairement être choquant. Hein.
C'est
la réalité. C'est pour ça que je veux le dire. Des fois, je trouve un comportement beaucoup plus citoyen, peut-être d'un étranger qui vient découvrir sur un territoire, que celui qui habite à côté. Et je ne veux pas non plus faire un amalgame concret.
Vous pouvez même sur l'Everest.
Non, on en voit.
Voilà. Levez la main. Je vous sens trépigner là.
Si on a une idée à travers les expériences des autres parts, de la quantité de gens qui vont arriver. Il y a toute la zone sud, apparemment, vous êtes confronté au problème et il faut absolument la maîtriser. Nous, au nord, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a quelques canyonneurs, mais on en entend des équipes, ça arrive, on n'a pas trop de problème. Mais on n'a pas de problème, on n'a pas d'hébergement, on n'a rien, on est tranquille. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir. Et moi, le premier, je ne me rends pas compte. Qu'est-ce que ça va se traduire par toi? Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Est-ce que
en zone un peu tordue, il y a des zones où le pastoralisme carrément mis en danger, c'est-à-dire que tu ne peux pas tirer à certaines zones parce qu'il y a trop de monde. Il y a des zones où il y a des sites protégés naturellement, etc., qui sont carrément ruinés parce que c'est une gestion.
Normalement, c'est pas normal. Dans un site Natura 2000, vous avez un plan de gestion et vous avez un gestionnaire. Donc, il y a des crédits pour gérer cet espace. Pardon ?
Les routes, les accès sont libres, les parkings sont libres. Depuis 10 ans, tout le monde qui est rationné pas là, rien n'est fait. Et là où il y avait 500 wagons, il y en a 1000. C'est la base. C'est véritable la base.
Donc ça renvoie. C'est bon. Non, là on est sur les objectifs opérationnels et moi ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est que cette question des plans de gestion, des actions concrètes, le plus physique et le plus proche des sites. Alors si on n'a pas une équipe verte, en tout cas il y a des actions à mettre en œuvre qui sont très concrètes. Pour canaliser, réguler, informer. Enfin, il y a une organisation de l'espace, de cet accueil. L'accueil, c'est pas que de l'hébergement, c'est aussi les sites d'aménagement, de parking, la manière dont on signalise, la manière dont on. Voilà. Donc, je sens cette, notamment avec cette question de différence entre la bordure et l'arrière-pays. Hein. Il y a vraiment cette différence.
Mais moi, il y a une chose. Ce qui me choque, c'est par rapport à, apparemment, de ce qu'on ressent, enfin, ce que je ressens moi, c'est que le local, il s'écoule. Alors lui, c'est vraiment le... Et les autres, ceux qui viennent de l'extérieur, ce sont ceux qui ne savent rien. Ou alors qui sont là pour, effectivement, perturber. Mais moi, je constate, de par mon exploitation, que beaucoup de gens du coin... ne savent même pas, disons, ce qu'ils ont chez eux. La preuve en est, bon, je sais pas, tu as un site touristique qui est une boîte aménagée, je dirais que moi, je vois quasiment peu, je vois aucun collégien, le collège de Saint-Vallier de Thiers, je ne vois jamais un collégien apprendre ce qu'il a sur son territoire. Et ça me perturbe, parce que je reçois des collèges de Nice, je reçois des collèges de n'importe où, du Var et du littoral. Seulement, les gens du coin, comme ils sont chez eux, ils se disent, nous, on est chez nous, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe chez nous. Parce qu'on, dans l'ADN, on est automatiquement, on connaît tout. Et moi, ça me choque, parce que quand je vois les visiteurs, c'est vrai que les gens, ils découvrent des choses, ils se disent, mais bon sang, il y a ça chez nous.
Alors je vous rassure tout de suite, il ne faut pas que vous soyez inquiets comme ça, parce que vous vous en stressez. Voilà. Donc, dans la commission numéro 1, il y a tout un axe sur l'éducation de la population, hein, définir un projet d'éducation et de sensibilisation au territoire, à l'environnement, à l'attention de ses usagers et de ses habitants, coordonner la coopération entre les acteurs de l'éducation autour d'un projet éducatif commun. Donc, ils sont en train de s'y colter. Hein. C'est pour ça que là, vous avez l'impression qu'on s'occupe que des touristes exogènes. Donc, on s'occupe bien un peu des autres, il y aura certainement des croisements sur les deux. Voilà. Il faut que vous repartiez un petit peu rassuré.
Il faut qu'on apprenne, nous, en tant que accueillant, de savoir comment accueillir aussi.
Absolument.
Parce que c'est bien beau, il y a pas mal de progrès à faire aussi à savoir accueillir les visiteurs.
Déjà, ils se prennent
une bouche, je n'ai rien dit aujourd'hui.
Monsieur Alain.
Enfin, ça va.
Je vais le noter, je ne sais pas où le mettre, à l'idée de. Donc ça existe, hein, ça, les formations de certains acteurs, par exemple du tourisme, à la connaissance du territoire. Hein, par exemple sur les hébergements, les gîtes pandas. Les gîtes pandas sont des gîtes labellisés où le gîteur a eu une formation, une sensibilisation, a de la documentation, il est un peu spécialiste, il est capable de dire aux touristes qu'il accueille. Là, je vous conseille de... Il est capable de faire des commentaires, s'il connaît bien le territoire. Il ne connaît pas que les collègues chez qui il peut les renvoyer, le restaurateur, le musée, etc. Mais il connaît aussi le territoire, les espèces. Il a une malle, une mallette pour les enfants dans laquelle il y a de la pédagogie, donc il accueille des familles. Donc on peut aller très très loin dans cette question-là. Après,
le gîte Panda, c'est un parc ou c'est un
éco-habitat? Le gîte Panda, c'est WWF qui l'avait labellisé et les PNR le réutilisent. Et après, vous avez aussi les hôtels au naturel qui sont une marque parc. Enfin, vous avez d'autres hébergements, mais peu importe, tout de suite, on ne va pas rentrer dans le détail de ça. Simplement, l'idée, c'est que derrière ce label, il y a aussi une charte et un engagement de l'opérateur touristique, de l'acteur touristique, qui s'engage sur une charte, sur un niveau de formation, sur un niveau de qualification, sur une manière de faire, sur la manière de gérer le lavage de ses serviettes de toilette, l'utilisation de ses consommables, etc. Donc il y a tout un tas de choses possibles.
Et la formation, elle est prévue dans la mission 4 ?
Ouais. Alors, en fait, elle n'est pas...
Pas sur les aspects touristiques.
Voilà, pas sur les aspects touristiques.
Peut-être dans le point 3, ça peut être rajouté sur la qualité de l'accueil, la qualité de l'accueil en milieu rural. Ça peut comprendre peut-être justement la formation.
Voilà. Ouais, c'est de qualité, il faut la qualifier, quoi. Quelque sorte. Je l'appelle. Non, il qualifie. Il a béni.
Formation,
il y a un réseau qui est très efficace là-dessus, c'est l'accueil paysan, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas forcément besoin d'avoir des gens qui connaissent ce qu'il y a à visiter sur la côte, ce qu'ils veulent, c'est des gens qui travaillent, qui ont. C'est ça qui est bien. Ah, l'accueil paysan, c'est vraiment la demande. Les gens, ils viennent pour ça, mais par contre, on est dans notre charte pour l'accueil paysan, on est censé leur expliquer ce que c'est que de vivre à la campagne, de ce que c'est.
Ok.
La manière la plus dirigée globalement, c'est un peu parce qu'on devra de l'utilisation par ce qu'on a appelé un touriste du territoire, il y a aussi l'utilisation de notre territoire par une partie importante de la population qui vient y exprimer des loisirs. Et je fais référence particulièrement au ski. Le ski, sur le territoire, il y a deux stations de ski qui drainent un volume important d'utilisateurs du domaine. Les utilisateurs du domaine, par exemple, sur les 3 mois de la saison de ski, ça a été globalement 400 000 utilisateurs d'une manière ou d'une autre de ces sites, soit en achetant des forfaits, soit en venant accompagner les skieurs, soit en venant faire d'autres activités autour de ski. Et le souci majeur du territoire sur ces activités, c'est qu'aujourd'hui, s'il sait offrir de l'accueil à la journée, il ne sait pas offrir un autre type d'accueil, parce qu'il n'y a pas suffisamment de capacité d'hébergement. Et je vois effectivement que dans la manière dont est rédigé ce document, on intègre la possibilité de développer de l'hébergement pour faire du séjour, et non pas simplement de la visite à la journée. Donc c'est un point qui me semble effectivement important pour le développement du territoire, même si effectivement on partage totalement la vie qui est exprimée. Quand on dit que ce territoire, il faut savoir le valoriser sur toutes ses composantes, donc éviter qu'il ne soit dégradé aussi.
Oui, mais on a plus de facilité à éduquer une population qui vient plusieurs jours qu'une population qui fait l'aller-retour, qui ne va avoir aucun contact, qui fait la consommation, qui ne tire pas.
Donc, il y a faire des accès à ces zones.
Pardon.
Non, mais il y a quand même un autre aspect aussi, c'est la proximité de ce territoire, et peut-être qu'il y a une utilisation par rapport aux populations locales sur la journée, parce que la personne qui habite Cannes, je veux dire, elle n'a pas un intérêt particulier à rester à gruyère les neiges
Ça, c'est un classique de tous les parcs.
À réfléchir.
Parce que souvent, les parcs sont à côté. Enfin, 80% des parcs sont proches d'une agglomération. Donc, cette attitude de consommation d'espace. Alors, ça m'amène quand même à l'idée, mais on en parlera plus globalement sur la gouvernance, c'est aux actions de coopération avec les villes portes, qui sont les villes émettrices de population. Il y a des villes portes qui s'engagent dans des programmes de sensibilisation de leur population, citoyen, enfin de leurs concitoyens. À Chambéry, il y a la maison des parcs naturels, enfin la maison des parcs, qui, sur le sillon rhodanien, fait de l'information, justement, pour cette population du sillon, enfin de la vallée, quand elle va sur les espaces sensibles. Il y a des possibilités de coopération, il y a des opérations. Le parc du Libradois-Forez, chaque année, il fait une semaine dans le centre commercial de Clermont-Ferrand, donc c'est 300 000 habitants. Le centre commercial de Clermont est fréquenté des villes de province. Et pendant une semaine, ils squattent tout le hall avec leur stand de sensibilisation, de la population. On est dans l'antre de la consommation, parce que c'est une consommation de luxe, c'est les magasins, le cuir, le machin, les bijoux, la FNAC, etc. Et dans cet antre, on met, à un moment donné, des joyaux du parc naturel régional, en disant attention, c'est un espace sensible. Donc il y a des coopérations possibles. Ok, je vous propose d'avancer si on est à peu près d'accord. Le troisième bloc, définir une stratégie. Donc là, on est sur artisanat, développement économique. C'est un des aspects, autant sur le tourisme, agriculture et forêt, on voit bien comment le parc peut travailler. Parce qu'on est quand même très proche, à chaque fois il y a des incidences sur les patrimoines, sur le paysage, sur l'identité, la culture locale, etc. Autant dès qu'on approche le développement économique un peu plus généraliste, artisanat, commerce, services, on est un petit peu moins à l'aise parce qu'on est obligé d'aller vers plus de... C'est quoi finalement la valeur ajoutée d'un parc naturel régional? Le parc naturel régional, il n'est pas censé distribuer des subventions à l'installation des commerçants. Par contre, il peut éventuellement aider les commerçants dans un village ou les commerçants de tous les villages du nord ou du sud à réhabiliter leur façade en tenant compte de l'utilisation des pierres ou des techniques d'utilisation ancienne sur le bâtiment, par exemple. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Et puis ça demande beaucoup de coopération, enfin les autres aussi, vous verrez. Ça demande quand même de la coopération avec d'autres réseaux, comme les chambres de métiers, les chambres de commerce, qui sont déjà assez actifs normalement sur ces questions. Bon, en même temps, moi j'ai l'impression quand même que c'est pas très clair sur le modèle de développement économique du territoire. Ça rejoint quand même là aussi ce qu'on disait. Le modèle de développement économique agricole, c'est quoi? Le modèle de développement touristique, c'est quoi? Quel est le modèle de développement économique? D'où l'idée de consolider aussi cette stratégie de maintien et de création d'activités économiques sur le territoire. Et après, on rentre sur des activités plus ponctuelles aussi.
Voilà, la lecture que j'en ai de ce territoire par rapport à cet aspect-là, l'activité artisanale ou économique, c'est un territoire qui a tellement été délaissé depuis, enfin, peut-être pas la partie sud-sud, hein. Autrement, tout le reste du territoire, je pense qu'il a tellement été délaissé depuis 50 ans qu'effectivement, il y a un gros travail à faire là-dessus. Quoi, parce que, à mon avis, rechercher les points d'ancrage pour développer, ça va être difficile. Parce que, pour moi, enfin, qui le vis depuis 30 ans, j'ai l'impression que ça a été délaissé. Quoi. Et donc, effectivement, c'est peut-être là où il y aura le plus de travail. Parce que, par rapport à l'agriculture, il y a encore de l'agriculture, il y a une nouvelle agriculture qui s'est mise en place. Donc, on a déjà des potentialités. Quoi. Tandis que sur le commerce, ça s'est dégradé jusqu'à hier. Quoi. Enfin, peut-être même aujourd'hui, ça se dégrade encore. Donc, c'est comment, cette phase descendante, on arrive à créer un palier pour remonter, quoi, pour redémarrer. C'est là que. Moi, je pense que. En fait, non, je ne veux pas dire du tout. Pour le moment, c'est un point d'interrogation.
Bah, je peux peut-être donner mon point de vue justement pour avoir travaillé à la fois sur la sous-commission commerce, artisanat, PMI, services et aussi sur celle qui est emploi, insertion, formation. C'est vrai que finalement on a plutôt plus de facilité à trouver des idées, des enjeux sur le volet emploi, insertion, formation parce que là il y a le lien avec la population, les besoins de formation, on peut s'en faire une idée par rapport justement
maintient nos
enjeux généraux du PNR. Sur le volet commerce, artisanat, etc., c'est vrai que c'est plus difficile parce qu'il y a du mal déjà, par exemple, à identifier des savoir-faire locaux. Ou des. Enfin, on s'est interrogé hein, justement sur. Puisque ça apparaît régulièrement. Il a même été noté dans les atouts, il existe des savoir-faire locaux. Oui, mais lesquels finalement, difficile d'avoir des réponses. Alors, ce qui a été évoqué en savoir-faire locaux, c'est quand même la parfumerie. On m'a rappelé aussi qu'il y avait quand même un pôle de compétitivité sur Grasse et que là, il y a certainement quelque chose à faire à ce niveau-là parce que l'ensemble du territoire est concerné, je pense, à différents niveaux, hein, que ça parte de la cueillette, de la production à la transformation. On m'a évoqué les moulins à huile d'olive. Bon, là, je pense que ça reste un peu plus limité parce que quand on est vraiment sur le nord du territoire, on est en dehors de la zone de l'olivier. Mais bon, on n'est pas obligé non plus d'avoir l'ensemble du territoire concerné par un savoir-faire local.
C'est pour ça que j'ai fait ce petit préambule en introduction, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en faire une fixation. Si on a 8 objectifs opérationnels et qu'on passe à 4, c'est une preuve de maturité intellectuelle collective. C'est-à-dire que, en gros, si on arrive à donner comme message le parc dans ses 12 premières années, il y a déjà beaucoup à faire sur d'autres chapitres. Et sur celui-ci, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un travail de réflexion, d'identification et de soutien sur quelques points prioritaires, pas 150 parce que le parc ne pourra pas tout faire. Et qu'on dise, ben, peut-être ce serait bien quand même que le parc aide les communautés de communes à essayer de structurer un peu quelques bourgs ou villages de services, globalement. Avoir comme ça quelques priorités. Éventuellement, aider les chambres de métier ou les chambres consulaires à introduire les systèmes de management environnemental chez les artisans ou chez les commerçants ou chez les quelques petites industries qui ont envie de le faire. Et puis, troisièmement, soutenir une activité assez emblématique, assez identifiée, qui est toute la filière cueillette, parfum, etc., pour raccrocher le territoire et travailler aussi sur le lien arrière-pays et pôle de compétitivité grassois. Voilà. Si déjà il y a trois chantiers comme ça, moi, personnellement, je vous trouverais raisonnable, sage et efficace. Voilà. Donc, parce qu'encore une fois, je pense, par exemple, sur la notion de maintien de service public ou de recréation de service public, c'est très compliqué. Je veux dire, moi, je connais les gens de la Creuse et de la Corrèze, quoi. Vous aussi, vous avez sans doute dû vous battre pour maintenir un certain nombre de services, mais c'est un bataille de titans. Enfin, c'est Don Quichotte, quoi. On ne sait pas trop contre qui on se bat. Donc, il peut y avoir cette vocation dans le parc d'être un lieu d'écoute, d'expression, de fabrication d'un mouvement politique, d'une résistance politique sur quelques idéaux comme ça. Mais vous ne fixez pas non plus l'objectif de dire, allez, dans tous les bourgs, je mets un minimum de un commerçant, un bar, une boulangerie. Parce que c'est faux.
En même temps, la sous-commission a pas mal insisté sur le maintien des services publics.
Hein. Oui, non, mais
ça avait l'air actuellement, ils sont surpris. Donc on se bat vraiment.
Oui, mais que peut le parc naturel régional, si ce n'est dire je vous soutiens moralement, et c'est déjà un gros. On est tous des êtres humains, donc c'est important d'être soutenu moralement. Si ce n'est également exprimer peut-être un soutien auprès de quelques communautés de communes qui pourraient mettre en place des opérations expérimentales du genre bistrot de village. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de. Vos collègues de Fort-Calquier ont un peu innové. C'est trouver dans quelques villages un gérant d'un équipement qui va être à la fois. Qui va permettre de recréer le bistrot, un point poste, un point fax, un point téléphone, un point librairie ou au moins presse et tabac. Voilà, et donc il y a quelques opérations pilotes qui peuvent permettre, dans un certain nombre de lieux un peu prioritaires, voilà. Mais il ne faut pas vous attendre à ce que. Ou alors lancer une réflexion. C'est quoi les services publics en race campagne? Quel est le modèle de fonctionnement? Donc lancer une réflexion et soutenir les quatre communautés de communes qui ont envie de réfléchir à ça, par exemple. Voilà. Mais vous attendez pas à ce que la Banque de France ouvre ses caisses et puis. Vous le savez, remarquez. Ouais.
J'interviens là-dessus. Moi, toi, je suis là-bas, donc je côtoie un maximum, enfin, je côtoie des gens, quoi. Au niveau de l'insertion, le chômage, les jeunes qui sortent des écoles, je veux dire, là, on a, là, il y a un rôle à faire, quoi, parce que...
Là, vous êtes déjà sur l'axe 4, là.
Peut-être que je suis sur l'axe 4, on parlait un peu d'insertion, madame.
D'accord.
On avait déjà un peu discuté, on s'est...
Mais je disais effectivement, oui, que c'était plus
parce que si, la, si, le, si le parc a des vocations à développement économique, pourquoi pas former les gens qui n'ont pas de travail? Pourquoi vers ce qu'il risque d'y avoir comme filière? Et quand on parle, vous parliez de services publics, on peut parler, certains pensent aux impôts à la poste, mais simplement à un lieu où les gamins ils puissent passer leur permis de conduire dès la plus 18 ans, qu'ils ne soient pas obligés de se taper le bus à 6h30 du matin et de monter à 14h, que ce soit un point d'emploi qui soit fixe une ou deux fois par semaine, mais que le gamin ne soit pas obligé de prendre son bus pour aller au rendez-vous et pouvoir remonter après, qu'il se trouve à l'emploi et qu'il n'est pas à l'heure, un gamin ou autre chose, et qu'il se retrouve à retrouver un autre rendez-vous deux jours après ou un mois après. Bon, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont des capacités là-bas, qui ont des valeurs de travail, et il ne suffirait pas de grand-chose quoi, pour qu'ils arrivent à travailler et à avoir une, entre guillemets, une reconnaissance sociale. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a eu trois associations chez nous d'insertion. Il y en a une qui est tombée à l'eau. Il y a deux là-dessus, on peut travailler aussi. Notamment une dans la filière bois, l'autre qui a également fait des cueillettes de pluie pour faire des guirlandes. Et faisons avec tout ce qu'il y a et le potentiel qu'il va y avoir. Je pensais aussi aux services publics, les personnes âgées, quoi, qui n'ont pas les... Enfin, peut-être, mais... des bûcherons, je veux dire, quand tu vois des grands-mères qui tapent les bûches, qui achètent leur bois, qui le montent chez eux pour se chauffer, alors qu'il y a un service public, il y a des gens qui ont pour eux, ça. Mais, je veux dire, il y a peut-être une aide aussi aux personnes âgées, la population est vieillissante derrière.
Alors, moi, simplement, hein, sur
voilà,
cette...
c'est tout ce que j'avais à dire, mais qu'il faut penser à ces gens, et c'est pas parce qu'ils sont au chômage qu'ils ne veulent pas, quoi. C'est difficile, quand vous habitez là-bas et que vous êtes tout seul et sans moyens, de trouver une formation, de trouver un emploi et d'être compétitif par rapport aux autres. Et une bagnole pour aller travailler, quand j'entends les gens qui disent qu'ils ne vont pas prendre leur bagnole pour aller travailler en bas, ben ils n'ont qu'à le faire quand il y a la neige, quand il y a le vent de l'arbre, quand tu tapes un sanglier, tu as bouffé ta bagnole et tu as bouffé ton salaire. Et une bagnole en Bretagne aujourd'hui, c'est énormément cher. Donc, voilà, ben ça. Ben je pense qu'il y a des gens, il y a des capacités, il y a des bons gamins là où il y a des gamins qui ont vraiment de. Il y a des gamins qui savent travailler, qui ont du boulot. Et qu'eux, ils disaient. Une chance équitable par rapport à tous les gens qui ont tous. Voilà.
Je pense
aussi aux personnes qui ont deux enfants.
Non mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et on le retraduit dans l'objectif 4, dans l'objectif orientation stratégique numéro 4. En fait, la question, elle est sur l'adéquation entre les besoins des populations, en gros, pour faire simple, et la capacité du territoire à offrir les services ou les activités qui vont répondre à ces besoins. Soit c'est le système marchand qui le permet, soit ce sont des systèmes alternatifs parallèles ou complémentaires comme l'insertion, qui sont souvent d'ailleurs des SAS qui viennent parfois constituer des SAS pour revenir vers le système marchand ou les emplois durables, etc. Donc je pense que c'est assez bien traduit. Peut-être qu'une des idées ce serait de dire, est-ce que le parc ne peut pas réfléchir à la mise en place d'un schéma de service sur le territoire, ce qui se fait ailleurs dans notre territoire, c'est-à-dire une réflexion, il y a un schéma de service qui est un schéma des services à la population qui est défini, et ensuite c'est pas nécessairement le parc qui va mettre en œuvre les actions parce que c'est pas de sa compétence. Par contre, ce schéma de service a été conçu, travaillé, réfléchi avec les communes et les communautés de communes qui elles peuvent éventuellement intervenir sur le maintien d'un certain nombre de services, qui éventuellement ont passé un accord avec les acteurs qui ont en charge la mise en place d'un plan local d'insertion par l'économie, qui eux vont avoir l'argent, les équipes, les techniciens pour accompagner, soit en formation, soit en insertion des personnes, qui vont avoir peut-être un partenariat avec la chambre de métier ou la chambre de commerce, qui elle va soutenir l'installation de tel commerce particulier à un endroit. Donc peut-être que c'est définir un schéma de service à la population, qu'il soit public ou pas, hein, et ensuite être un peu le lieu de concertation et autour duquel les acteurs vont se retrouver, vont ensuite appliquer leur plan.
Mais est-ce qu'on ne peut pas demander savoir quels sont les besoins du terrain? Quelle est l'offre du territoire et la potentielle
des gens? En règle générale, ça peut se faire dans le cadre des. On parle bien des besoins de services à la population, soit marchands ou non marchands. Hein,
mais sur le terrain, tu as des personnes qui sont.
C'est un diagnostic qui est fait.
Tu as des personnes qui n'ont pas de travail, qui cherchent un travail. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas voir toutes les associations, voir si on pourrait développer une planète, la planète d'offres, comme une, entre guillemets, une banque d'emploi, les gens viennent s'inscrire pour demander un emploi.
C'est un petit peu long, de l'observatoire là aussi, hein, justement, c'est d'identifier, faire un état des.
Par rapport au PNR, si par exemple, je veux dire, moi j'ai une banque d'entreprise de chauffage, on va travailler au maximum dans le plus proche possible de notre site, sur pied sur Saint-Vallier, donc on va travailler sur Saint-Auban, sur Caille, et dans notre milieu, et je pense que dans tous les milieux, parce que ce sera le même problème, je vais dire, bon, ben, je vais aller faire une coupe, mettons à Caille. Mais c'est vrai que je pourrais, en travaillant en équipe avec la mairie, avec les conseillers, dire, voilà, ben, moi je vous achète une coupe de bois, et en contrepartie, j'embauche quelqu'un de chez vous pendant la durée du chantier. Pour lui faire une formation, que ce soit une formation en continu sur 6 mois, sur 3 mois, moi je pense que on peut arriver à mettre ça en place au niveau de la filière du bois. Mais après, je vois par exemple des grosses sociétés qui vont faire des travaux pour maintenir les routes en place, et je pense que ce principe-là, ils peuvent reprendre en disant, ben, en vrai, c'est à la mairie de dire, voilà, nous on prend un marché, mais en contrepartie, vous allez nous former un jeune de chez nous, ou deux, ou trois.
Ça s'appelle l'insertion de clauses sociales dans les contrats.
C'est l'exemple. Voilà, qui veut dire, mais. Les mairies qui voilà, ben nous, on fait travailler.
D'accord, donc ça, ce serait une
activité. Du travail pour
le peuple. Si tu trouves une coupe à Saint-Auban, tu trouves un jeune là, qui est qualifié bûcheron, j'ai jamais vu un mec travailler aussi.
Oui, mais bon,
Non, mais je te le dis.
Mais c'est vrai qu'on peut travailler ensemble. Je dirais le PNR, il y a pour nous réunir. Ça pourrait être bien. Faire découvrir des métiers différents à plusieurs personnes.
Moi, je propose je verrai comment le rédiger, mais je pense qu'on pourrait. Peut-être. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je termine. Juste pour répondre à sa question, je pense que l'idée de réfléchir à un schéma de service à la population, ça va générer ensuite, notamment dans l'axe 4 sur la question de l'insertion et de la formation et la capitalisation des savoir-faire locaux, ou des personnes et des actifs locaux, le fait de faire un diagnostic, ça va déboucher sur des actions, et une des actions, ça pourrait être de dire, ben, le parc va soutenir ou va aider les communes ou les communautés de communes à recalibrer un peu leur mode de passation de marché public, dans la loi, hein, mais en les aidant à inclure des articles spécifiques ou des clauses sociales, de manière à ce qu'elles puissent, parce que ça demande un peu de technicité, donc les petites communes ou les communautés de communes qui n'ont pas toujours cette technicité juridique, le parc, lui, vu tout ce qui se fait dans le réseau des 45 parcs, il peut récupérer des clauses, des marchés ou des contrats types, et du coup aider la communauté de communes qui veut mettre en place ce genre de choses. Donc, voilà, donc il y aura peut-être des actions comme ça, et du coup il y aurait un axe qui est soutenir ou encourager les initiatives de développement durable et social, ou socialement responsable des collectivités, et hop, c'est là-dedans peut-être. Et ça peut être une solution. Et ça met en lien les deux, le service à la population et l'utilisation des main d'œuvre locales.
Essayer de recenser les bâtisses qui pourraient faire des hébergements, je crois, non ? Il y a des bâtisses à rénover. Pourquoi, à ce moment-là, si c'est pris dans le territoire du parc, ça ne pourrait pas être fait par une entreprise locale, mais avec des gens employés du terrain qui cherchent de l'emploi. C'est ce contact-là qui peut se faire de plus à la.
Mais c'est pour ça que je disais en fait qu'il est plus facile en termes d'emploi d'imaginer du développement économique en lien avec les orientations du parc que du développement économique se basant sur des savoir-faire locaux ou des choses comme ça.
Oui, sauf qu'il y a quand même un biais qu'il faut éviter, c'est que le parc ne doit pas faire ce que d'autres sont censés faire. Donc,
mais comme ils sont incompétents, ils font voir.
Mais il y a la loi, donc moi je voudrais éviter d'écrire une charte illégale. Quoi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça nécessite forcément un travail de concertation avec d'autres acteurs dont c'est la responsabilité. Donc, s'ils ne sont pas capables de le faire, je prends un exemple, les chambres de métier, avec toute leur bonne volonté, ou les chambres de commerce, elles vont avoir un effet d'économie qui va faire que leur technicien va d'abord aller là où il y a de la masse. Et les hauts cantons, c'est sûr que leurs techniciens, quand ils ont un rendez-vous dans une entreprise, et pour ce rendez-vous, il faut la journée, ça n'encourage pas nécessairement à aller faire de l'appui.
Ils commandent l'entreprise à 10 ou à 4.
Voilà. Attendez, je termine. Et donc, du coup, le parc pourrait tout à fait passer une convention ou un accord avec la Chambre de commerce en disant, nous, on a un technicien spécialiste de la mise en place des systèmes de management environnemental dans les entreprises ou spécialiste de l'insertion de clauses spéciales, sociales, responsables dans les... Et on passe une convention et puis c'est nous qui, sur ce bout de territoire, c'est plutôt nous qui allons faire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas s'imposer sans avoir un peu de concertation avec les acteurs pour lesquels c'est le rôle. Une communauté de communes, vous ne pouvez pas lui imposer de mettre en place sur ses marchés publics l'insertion de clauses sociales et responsables. Vous n'avez pas le droit d'imposer, donc c'est de la négociation. Donc, je suis d'accord avec vous, il y en a peut-être qui sont soit incompétents, soit qui n'ont pas le temps, soit qui n'ont pas les moyens, il y a peut-être un travail conjoint.
Voilà. Pourquoi aussi le parc, s'il ne pouvait pas signer une convention avec les associations de la section qui sont en place, je ne sais pas, les mutualisations des associations.
Ça peut être développé, on en parlait tout à l'heure, développer des actions d'insertion, alors qu'elles soient dans le cadre de structures d'insertion par l'activité économique, ou qu'elles soient dans le cadre d'actions de formation, ou de politique de contrat aidé aussi, pas forcément dans le cadre de structures d'insertion par l'activité économique. Donc développer des actions d'insertion au sens large sur, par exemple, tout ce qui est habitat écologique, les techniques du bâtiment, des choses qui sont en cohérence avec les orientations d'un PNR, tout ce qui est protection de l'environnement écologique.
Il y a la demande des touristes, il y a la demande de... répond aux besoins et à la demande du monde, du habitat.
Oui, mais ça, il faut que travailler pour être professionnel de chaque milieu.
Ils existent.
Ce que je disais par rapport à l'activité économique du territoire, c'est tantôt, je veux dire, c'est que sur ce territoire, lorsqu'on voit l'état de l'habitat, je veux pas dire par là qu'il est vétuste ou qu'il n'est pas adapté, mais le fait est, c'est qu'il y a tout un aspect du travail sur cet habitat qui a été délaissé par les propriétaires parce qu'il n'y a pas les outils sur place pour pouvoir faire ce travail-là. Et là, il y a un menuisier qui s'est installé dans un village par chez nous. En définitive, son carnet de commande, il est plein pour 2 ans. Et en plus, il a une manne qui est tombée cet hiver, la neige, qui a fait pas mal de cases, et donc son carnet de commande s'allonge, je veux dire. Parce qu'en définitive, il y a plein de petits travaux qui n'ont pas été effectués depuis 20 ou 30 ans, parce qu'il n'y a pas d'outils sur place. Et donc, c'est toujours embêtant d'aller convoquer une entreprise qui est à Cannes ou à Nice pour la faire venir, pour faire les devis, etc.
C'est pour ça qu'il y a...
cet aspect-là, quoi.
Donc, mais là c'est... Quand on dit favoriser l'accès à la formation des actifs en lien avec les orientations générales de la charte, entre parenthèses énergie, développement durable, artisanat, c'est ça, c'est mettre en place ce que je disais tout à l'heure, un programme de formation avec la chambre de métier. On dit à la chambre de métier, on voudrait montrer un programme d'action, une action de formation sur des savoir-faire locaux. On en a encore un qui sait à peu près faire ça correctement, mais il a 62 ans. Il aimerait bien passer. Il est capable d'intégrer un module de formation. Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher du Fonds social européen qui va financer à 50%, un peu de crédit de la filière du collecteur 1%. Nous, le parc, on va trouver 20% auprès de l'État ou du conseil régional qui finance la formation. Et on met un module de formation de 12 artisans sur l'année sur ces métiers-là, et du coup on recrée une capacité locale de répondre à des besoins, et voire même à côté de ça on va aller chercher des financements spécifiques pour financer le surcoût des travaux lorsque on utilise les matériaux locaux, je ne sais pas quoi, ou les techniques qui coûtent un peu plus cher parce que pour payer le surcoût lié au fait qu'on cherchait un architecte spécialisé sur cette question-là, ou un bureau d'études particulier. Donc il y a tout un tas d'idées et c'est un peu ça là-dedans.
Juste une petite remarque, je crois que ça peut être utile d'inviter la personne de la chambre de commerce dans cette sous-commission. Je ne sais pas si elle a déjà invité.
Je les ai contactés. J'attends.
Il y avait quelqu'un de la CCI à l'une des réunions.
Il y a aussi toute une politique. Tout à l'heure, vous avez parlé de bistrot. Il y a les bistrots de pays qui sont chez nous dans 06. Donc, voilà, il y en a un qui va être inauguré la semaine prochaine. Donc, voilà, donc ce serait peut-être aussi une piste que tout le monde.
Et qu'est-ce que vous avez mentionné ?
Oui, tout à fait. Non, mais.
Là, on parle d'énergie. J'ai entendu le président sur PNR qui voulait qu'on soit avec ses antennes.
Ouais, mais ça renvoie donc. Je suis désolé, je renvoie beaucoup.
C'est le problème de la transversalité.
Voilà, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on recommande. Si, il y a une transversalité, mais on peut pas. Vous avez vu, il est midi et demi, midi et dix, et on a à peine traité notre domaine-là. Donc, notre domaine. Par contre, c'est moi là en l'occurrence, et puis nos collègues là qui assurent un peu la transversalité. Donc, je suis en train de monter un certain nombre de choses, notamment sur la réhabilitation du bâti ancien, parce que dans la commission bâtiment ancien et habitat, dans la commission numéro 4, 2, 3, 4, il y a développer des pratiques urbanistiques et architecturales durables, garantir le respect des caractéristiques locales de construction, implantation de matériaux, etc., coordonner la conception et stratégie d'aménagement. Donc il y a des choses qui vont être faites dans la commission 4 qui sont en lien avec ça, c'est-à-dire que toute la politique, soit d'habitat, soit de réhabilitation, elle va éventuellement venir chercher, et donc il y aura peut-être un groupe de travail conjoint issu de ces deux commissions qui mettront en œuvre ce programme de formation. Au moment où vous allez négocier avec la chambre de métier la mise en place de cette action de formation pour les 12 artisans, il y aura quelqu'un de la commission énergie peut-être qui viendra en disant ouais, il faut aussi injecter dans cette formation l'utilisation des énergies renouvelables ou les techniques d'isolation avec les matériaux écologiques, que sais-je.
Donc, oui, les savoir-faire locaux pour le travail de la pierre, ça, je pense que ça a été relevé aussi. Mais est-ce que, donc, il serait judicieux de faire une refonte de ces deux sous-commissions en une seule ?
Ben, je me demande si,
moi,
ce serait pas plus efficace et plus crédible, surtout. Ouais. Parce que là, tout de suite, on a 29 objectifs opérationnels, on représente 40% de la stratégie. Il y a un peu une hypertrophie qui déséquilibre le bateau. Donc
oui, puis on voit bien qu'on a du mal à travailler de toute façon sur toute la partie le commerce.
On peut essayer de fusionner.
Donc, il y a beaucoup de points et à mon avis, ils peuvent être vraiment... Bah,
si vous me laissez carte blanche, j'essaye de vous proposer quelque chose. Alors le problème, c'est qu'on arrive à la fin de la réunion et il faut planifier les sous-commissions qui sont censées, comme je le disais tout à l'heure, retravailler. Hein, puisque... on n'a pas tout fini, hein. Je pensais qu'on... Mais on a quand même, me semble-t-il, assez bien avancé, assez bien un petit peu stabilisé les choses. Ce qu'il faudrait, c'est qu'entre maintenant et fin mai, même si toutes les sous-commissions ne se sont pas réunies avant le forum de fin mai, bon, c'est mieux si c'est le cas. Si ce n'est pas grave, c'est pas grave, ça continuera, on fera des ajustements après. C'est que ces sous-commissions se réunissent à nouveau pour travailler sur des précisions, sur des pistes d'action un peu comme celles que je viens d'évoquer. Peut-être que vous disiez, ah ouais, ce qu'il a dit l'autre fois, c'était peut-être pas si bête que ça. Et puis, parce que des fois, c'est des trucs intéressants quand même. Et que vous le réappropriez en disant, ouais, ça c'est peut-être un levier. Bon, vous travaillez là-dessus. Et surtout sur le qui fait quoi, un peu comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Ah ouais, mais cette action, en fait, il faudrait mettre autour de la table la chambre de commerce, les communautés de communes, là, les associations. Des usagers des falaises. Donc, aller un petit peu plus loin par sous-commission sur ces objectifs opérationnels pour voir un peu derrière ce que vous y mettez hein, en termes d'action et de qui fait quoi. Parce que c'est bien beau de dire ouais, il y a qu'à Faucon, mais après, le problème, c'est qu'il faut faire. Et qui fait hein. Et qui fait, c'est la loi qui dit qui fait. Hein. C'est ma compétence communale de mettre en place un plan local d'urbanisme. où c'est mon objectif et ma mission en tant qu'association des représentants de telle catégorie de mettre en œuvre. Donc, il faut qu'on identifie ces gens et ces acteurs. Donc, ces sous-commissions, elles reprennent un sous-paquet, et puis elles vont un peu plus loin et elles font comme la dernière fois, elles nous envoient, si possible, un peu plus que 24 heures avant la réunion, qu'on puisse intégrer les éléments et aller un peu plus vers qu'est-ce qu'il y a derrière cet objectif opérationnel. Ça ne veut pas dire que ces objectifs-là, ces exemples d'action et ces objectifs et ces partenaires-là, on va le mettre nécessairement noir sur blanc dans la charte, puisqu'encore une fois, la charte, elle est là pour 12 ans. Par contre, ça va nous aider à circonscrire de quoi on parle et faire la famille un peu générique. Je ne sais pas si c'est un peu compliqué ce que je dis. Je vous demande d'aller le plus loin possible sur les actions, mais en fait, cette partie-là sur les actions et sur le qui fait quoi, je ne vais en prendre qu'une partie pour la rédaction de la charte. Puisque moi, la rédaction de la charte, elle fera 70 pages, alors que si je mettais bout à bout toutes les actions que vous avez en tête, comme c'est pour 12 ou 20 ans, ça ferait 300 pages. Et en plus, vous ne feriez pas tout, parce que dans 3 ans, ça aura changé, il y aura eu un tremblement de terre, ce ne sera plus la priorité, il y aura autre chose, etc. Je caricature un peu, mais je ne suis pas loin de penser qu'on peut avoir un
problème. Mais alors, quand est-ce qu'on aura l'état des lieux, justement, le nombre de gîtes existants actuellement?
Ça, c'est une liste d'actions.
C'est une
liste d'actions.
Ouais. Alors, ça, c'est un autre
problème. Moi, je pensais qu'il fallait l'avoir avant, justement, pour
ouais. Nous, on pensait à l'origine, mais c'est un élément important.
Non. Parce que dans les sous-commissions, vous avez réclamé
un jeu. Oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez reçu quelque chose?
Non, ça a été pris un peu dans
est-ce
le...
Est-ce que là, on ne donne pas un délai enfin,
ça reste actuel, on a discuté hier soir, donc le document, j'ai vu ça avec Marielle, il va falloir qu'il passe au moins, que vous puissiez recenser individuellement, chacun de votre côté, dans vos communes, qu'est-ce qui se passe par commune, vos activités plénières, les hébergements, les gîtes, au moins pour qu'on puisse réactualiser un peu le diagnostic et savoir le territoire, un peu qu'est-ce que c'est. Donc ça, c'est important pour savoir. Bon, après, on essaiera de l'utiliser.
La difficulté, en fait, nous, tout à fait au début, on pensait que le diagnostic qui avait été fait en 2004 suffirait. Le problème, c'est que les choses ont beaucoup vieilli depuis 2004, et puis qu'il n'était pas précis sur tous les thèmes. C'est la raison pour laquelle on avait demandé que dans les sous-commissions, celles qui se sont réunies entre le 13 mars et le 17 avril, donc les derniers mois, le diagnostic soit mis à jour sur les grandes caractéristiques, les grands indicateurs, les grands chiffres clés. C'est ce dont vous parlez. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu tant de ça de remonter. Donc pour l'instant, on reste encore un peu orphelin sur cette information-là. Compte tenu du plan de charge actuel de Muriel et puis du fait que Françoise est toujours avec ses difficultés de santé, ne peut pas reprendre. Donc ce travail-là qui chemine, nous on est là et vous êtes là, on va à un moment donné, c'est vrai qu'on préférerait avoir des chiffres, comme vous le dites, nous on a le même problème que vous, c'est-à-dire que pour quantifier dans la charte quel est l'objectif, combien, où, quel secteur, on a besoin de ce matériau. Donc nous ce qu'on vous propose c'est de continuer à alimenter, reprise des éléments de diagnostic par Sanitamix, sauf qu'il faut que vous continuez à alimenter ces chiffres-là de manière à ce que le Sanitamix les consolide et qu'on puisse...
Sous-commission,
il faut aller
chercher
quoi,
le rapport de 2004. Ah oui, dans le PLF. On se base sur le rapport de 2004 pour reprendre la trame, pour alimenter sur ça, ou c'est ça. Un support diagnostique sur lequel éventuellement on peut se baser.
Nous, on était parti du 2004, mais si vous voulez qu'on fasse un petit canevas un peu plus ciblé.
Moi, je pense qu'il faut faire un canevas.
Si c'est pas une surcharge de
travail. Si c'est une surcharge, mais de toute façon on n'a pas le choix. Nous on peut faire un premier niveau d'effort.
Mais malgré ce qu'il y a de bas, après ce que je disais, c'est que n'hésitez pas à tourner la page derrière et à noter ce qui vous semble être un avis. Après on verra bien ce qu'on peut en faire. Parce que peut-être dans le canevas, on ne pensera pas à tout. Donc il y aura le canevas parce que lui, il sera inspiré entre guillemets et diagnostic. Et on sait qu'il y a des choses, il y a des trous, il y a des choses à réactualiser. Reprise des éléments, et puis il y a derrière, il y a ce que. Ah oui, mais ça, j'aimerais bien le mettre parce que bah, c'est oublié, ça fait tellement de temps que ça n'a pas fonctionné.
Donc on fait ça. Qu'est-ce que je peux ici donc en fait, je disais ça parce qu'en fait, du coup, sur l'axe 3, c'est l'axe 4, enfin, l'orientation stratégique numéro 3, qui est sur les services, l'économie en général sur le territoire, et l'orientation stratégique numéro 4, qui est plus sur l'adéquation, insertion, formation, valorisation des ressources humaines et des compétences locales, on peut essayer effectivement peut-être de le fusionner en un seul, c'est-à-dire qui serait sur la valorisation, l'optimisation des ressources et des compétences pour un meilleur service ou des services à la population qui soient marchands dans marchands, et du coup, ben, soit on va chercher du commerce, soit on va chercher du service, soit on va chercher de l'association d'insertion. Ouais. En tout cas, donc, on peut essayer peut-être de travailler à cette fusion-là, ce qui ne fera qu'un seul troisième. Donc on va peut-être faire une synthèse, il y aura peut-être plus d'exemples d'action, mais c'est pas très grave. Donc, on peut... Le problème, c'est vous le voulez pour quand ? C'est-à-dire que je ne peux pas vous faire pour ce soir. Quoi. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous voulez enfin, quand est-ce que vous allez faire vos prochaines réunions de sous-commission ?
Dans les 15 jours qui viennent, hein. Dans le courant de la semaine prochaine, si je peux avoir...
Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est que la semaine prochaine, alors, fin de semaine, parce que donc, vendredi, on vous envoie deux choses. On vous envoie l'arbre, la branche numéro 5. Vous voyez, branche numéro 5, autour de trois orientations, et fusionner l'orientation 4 et 5. 3 et 4 heures. Voilà. Et puis envoyer le canevas de collecte d'informations pour la consolidation. Et vous, bah, entendez-vous pour voir quand est-ce que vous pouvez réunir vos sous-commissions d'ici 15 jours, 3 semaines. Quoi. Peut-être 3 semaines, parce que j'ai l'impression que 15 jours, c'est... C'est quand les vacances, c'est en ce moment, je sais pas.
Ce qu'il y a, c'est qu'après, il va y avoir tous les
cours. Alors, le mois de mai, c'est un cataclysme. C'est un... Trouver des dates en ce moment sur le mois de mai. Voilà, on essaye d'organiser un forum territorial fin mai, début juin. Enfin, nous, le président nous a dit fin mai, mais ça va être autant.
Quelle année ?
2009. Sachant que si vous n'y voyez pas d'ombrage, nous, on va se permettre de commencer à rédiger des choses.
Ce qui sont bien qu'à...
Pardon ? Non, mais si on considère qu'on a à peu près stabilisé les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels, on valide ça au forum territorial de fin mai, début juin. Du coup, après, c'est qu'une question de rédaction. Il y a en fait trois grosses difficultés, hein, parce que le PNR, c'est vraiment la gestion des difficultés. Donc vous allez vous réunir à nouveau, vous essayez de travailler là sur les deux points dont je vous ai parlé. Cette architecture là qu'on a à peu près stabilisée ce matin, on la met au propre, on va la présenter aux élus du syndicat mixte dans le cadre d'une réunion du conseil syndical ou du bureau élargi pour vérifier que ça colle. Et on vous présentera ça à peu près formalisé fin mai, début juin. Mais parallèlement, ce que vous ne voyez pas dans l'ombre, c'est qu'on continue le travail et les élus aussi du syndicat, et que notamment, il y a un autre document qui doit être déposé en avis intermédiaire. À côté du rapport qui est rédigé, il y a la préparation de ce qu'on appelle le plan de parc, qui est en fait la déclinaison spatiale des orientations politiques. Vous disiez tout à l'heure, il y a des sites sensibles où les écrevisses à pattes blanches vont disparaître, se font bouffer par, ensuite vont être remplacées par les écrevisses américaines, bon, etc. Voilà. Ben, peut-être que cet espace-là, tout le monde va être d'accord pour dire qu'il faut mettre un plan de gestion spécifique sur ce site qui est très fragile. Ben, ça, si on l'écrit dans la charte, il faut qu'on le retrouve dans un plan localisé, première chose. Et une fois qu'on a à peu près localisé cet espace, il faut qu'on aille voir la commune, enfin, il faut que les élus du syndicat mixte, qui sont en train de s'organiser, voient la commune et aillent dire à la commune, faites voir votre plan local d'urbanisme. Vous avez écrit quoi dans le plan local d'urbanisme sur ces écrevisses à pattes blanches ? Oh bah, nous, on a mis, on urbanise. Hein. Et donc, il y a un peu d'articulation, je caricature. Mais donc, ça, c'est le plus... Enfin, là, vous avez l'impression que c'est compliqué, mais en fait... Là, c'est vraiment très, très sensible. Donc, il y a un travail d'articulation et d'harmonisation qui est du même niveau que ça, puisqu'il faut être très exigeant et très ambitieux
Parce que si on fait un plan de parc, tout est blanc au bureau, on y va. Là-haut, ils vont dire, bah non, c'est pas la peine de nous envoyer ça, mais ce n'est pas parc. Donc il y a un travail. Et dernière chose compliquée qui est à faire, c'est l'écriture des engagements. Puisqu'en fait, il faut que... Vous, c'est sympa, vous dites, vous avez plein d'idées, etc. Et puis un peu, vous partez. Mais le problème, c'est que... Enfin, vous partez, vous resterez dans la vie locale, dans les commissions, etc. Il y a des responsabilités juridiques, et il y a des responsabilités d'engagement financier, qui ne sont pas nécessairement les vôtres. Et donc, il faut négocier avec la région, avec l'État, avec le Conseil général, avec les communautés de communes, avec les communes, quel est le niveau d'engagement auquel elles vont porter, qu'elles vont porter dans l'achat. Moi, Conseil général, je m'engage à mettre les moyens pour que l'orientation qu'on a vue tout à l'heure, donc les moyens humains, financiers, voire contractuels, pour que l'objectif opérationnel que vous avez proposé, ok, j'y adhère, donc je suis prêt à mettre tant d'argent, tant de moyens humains. Donc ces engagements-là, il faut qu'ils soient écrits dans la charte. Et ça, c'est encore une autre partie du plaisir. Voilà. Donc, voilà, on continue. On espère avant l'été, avant les fêtes nationales, avoir une première version de tout ça, de manière à ce que l'été permette la maturation, la discussion avec les élus communaux sur le plan de parc, la relecture par les uns et les autres, par les commissions de ce qu'on aura écrit, pour qu'en septembre, on corrige vos devoirs de vacances et qu'on mette une version numéro 2. Les choses ne sont pas finies. Courage. On avance. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on avance. J'ai pas l'impression que il y a une démobilisation. Les gens sont toujours là. C'est dur de garder la mobilisation sur des longues périodes, surtout quand ça a été enclenché depuis 2004. Et puis, il faudra faire de la communication. Je vous le dis à vous. Je vous parlais de... Vous êtes des démultiplicateurs d'opinion. Vous êtes les ambassadeurs du projet. Même si vous ne partagez pas 100% des idées de votre voisin de droite ou de gauche, vous êtes quand même rattachés à cette idée-là. Donc, il faut aussi garder un peu la foi parce que ça va durer, parce que la procédure administrative, elle est longue aussi. Hein, derrière. Il y a la consultation des services de l'État, des services de la région, qui eux-mêmes vont ensuite envoyer tous ces avis au ministère, qui vont demander l'avis du CNPN, l'avis de la fédération, puis ça va redescendre. Donc, il y a quasiment 8 à 10 mois qui sont neutralisés juste pour des questions administratives. Pendant ce temps-là, il faudra préparer l'enquête publique, qui est encore un autre truc. Donc, les communes vont devoir donner de l'information comme s'il y avait un spot, comme s'il y avait un plus, avec une enquête publique. Donc, c'est vraiment... tout ce qu'il y a dans la tuyauterie, c'est compliqué. C'est un peu sophistiqué. Donc, il faut garder un peu ce courage et puis cette persévérance et faire de la communication. Voilà, et tout ça, c'est du temps. Tout le monde, pour vous, c'est du temps. Mais alors, pour les élus locaux, c'est du temps. Pour les techniciens qui ne sont pas nombreux, c'est du temps. Voilà, donc merci de votre support. Est-ce qu'il y avait des questions?
Dans l'assiette. Dans l'assiette. Dans l'assiette. Dans l'assiette. Dans l'assiette. Dans l'assiette.